croyez en la magie. Autrement dit, croyez en Sylvain Mirouf. Père, son âme, c'était un nom qui ne fait aucun effet autour de la table. Ah, je suis vieux.
Mais si ça me dit quelque
non,
chose.
Non, parce que moi, j'ai pensé à. Comment il s'appelle ?
C'est un magicien ?
Sylvain Durif.
Non, rien à voir. Sylvain Mirouf, oui, c'est un magicien.
Oui,
non,
oui, après, je sais pas si c'était.
Qui officiait à l'époque.
Je crois pas que ton âge ait quelque chose à voir là-dedans. Je crois surtout qu'on s'en bat les couilles de la magie, nous.
Non, mais clairement, enfin. Moi, je suis allé à la messe quand j'étais petit. Je me suis dit, non, bah, c'est pas pour moi la magie.
Bon, moi, j'ai arrêté de toute façon, parce qu'à aucun moment, il fait tourner le pinard, ce connard.
Ah non, bah, ouais, c'est ça.
No in a world, Jack. What do you mean, no in a world?
It's not that kind of movie.
Oh? Okay.
Vous êtes complètement tapé ou quoi? Ça va être une tragédie, ce truc-là.
Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie.
Removing the head or destroying the brain.
Ça n'a pas l'air très effrayant. Comme une grosse dinde.
On va passer une bonne soirée, Monsieur Pignon. Une très bonne soirée.
Accrochez-vous, ça va faire mal.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fête à Béa, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce, sans aucune objectivité. Aujourd'hui, retour en terrain conquis avec En Avant, la nouvelle production des studios à la lampe sauteuse. Une virée dans un monde de fantaisie féerique, mais moderne à la recherche de la magie. Et nous ici, à Feta Béa, la magie, on aime ça comme des enfants accros au sucre. Alors quoi de plus normal que de déguster cette nouvelle Béa en compagnie de ma team de créatures magiques. Magiques, certes, mais pourtant bien intégrées au système moderne de notre société. Je vous laisse en juger en vous les présentant. Ambiance. Avec moi aujourd'hui autour de la table ronde magique, Kevin est là.
Je ne suis pas Kevin.
Ah. Qui êtes-vous?
Je suis un orque. Je suis Willy. Je suis en danger. Sauvez-moi.
Allez vite, il faut sauver Willy, c'est ça la blague?
Oui.
Avec un petit apport voix de Stallone.
Je suis déjà un petit rouleau. Ouais.
C'est parce qu'il a déjà le script, il a déjà le casting.
Erwan aussi est là. Coucou Erwan.
Oui, bonjour, je suis pas Erwan, je suis la Fétamine. Moi, je distribue de la poudre vers Montreuil, 193, à des jeunes gens dans la rue. Voilà.
And you're goddamn right. Mais aussi Clémence qui est là avec nous aujourd'hui.
Salut, moi je suis un petit léprechaun. J'ai eu une idée de génie un jour dans ma petite lande irlandaise et j'ai ouvert ma lépre-banque. Quelqu'un voudrait un prêt, j'ai un petit chaudron d'or.
Oui, bah oui, moi je
la lèpre banque, c'est genre tu vas là-bas pour choper la lèpre.
Non, c'est vachement sympa.
Ne critiquez pas la lèpre banque, nous offrons de très beaux services.
Est-ce qu'il y a un livret coronavirus pour épargner sur le long terme?
Il faut que les maladies de peau là-bas. Ah, mais attends,
mais qu'est-ce donc?
Quelle est cette créature?
Mais c'est pas Romain ça?
Ah non, c'est pas Romain.
Je ne suis pas Romain, je suis un loup bégarou.
Je me disais, ah mais tiens, c'est la pleine lune.
Oh non, pas la pleine lune. 1, 2, 3, 4, 5,
a little bit of time. Il s'est transformé.
J'assume plus.
Mais si, c'est très bien.
Allez, des présentations magiques! Un peu de poudre de perlimpinpin, ah, tiens!
Ouais, j'en ai dans ma besace, ouais.
Allez, on passe au sommaire. Comme vous l'aurez compris aujourd'hui dans cet épisode, rendez-vous là-haut au sommet de l'animation pour retrouver à nouveau les indestructibles studios Pixar et jeter un coup d'œil sur le travail des mille et une pattes de magiciens passionnés, ceux-là même qui ont offert un monde à Nemo et fait voyager Arlo. Oui, car en ce début d'année, les cocos de chez Pixar nous invitent à danser comme un camel Wally déchaîné autour de la BA féerique du dernier film En Avant. Une BA pleine de bons ingrédients magiques qui nous annonce une ratatouille d'elfes, de licornes rebelles, de centaures et moult monstres et compagnie évoluant dans un monde moderne et technologique calqué sur le nôtre. De ce fait, juste histoire de jouer encore un peu, nous essaierons de dresser une liste non exhaustive des diverses œuvres dans lesquelles les personnages, à l'instar de ceux d'En Avant, évoluent dans des mondes s'inspirant de nos codes de société, mais tout cela, évidemment, à condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé par l'illusoire précarité de nos amours destitués et vice-versa. Le compte est bon.
Bravo, bravo.
Je sais pas
si je cautionne le rapprochement entre Kamel Wally et Wally, mais bon, l'intention était là.
Si franchement un jour ils font un film avec des robots qui dansent, on l'appelle Kamel Wally. Moi je suis chaud, hein, c'est le titre qui gagne.
Il fallait le placer Wally, j'ai pas trouvé d'autre moyen de le placer qu'avec Kamel.
Wally Wallou.
Wally Wallou. Puis en deuxième partie d'émission, vous reprendrez bien un peu de Disney pour le dessert, car il sera venu le temps de nos avis sur le tout premier film étiqueté 20th Century Studios. Depuis le rachat de la Fox par l'Empire aux grandes oreilles il y a un an, presque jour pour jour. Je parle bien sûr de L'Appel de la Forêt. Alors, ce voyage en traîneau à travers le Grand Nord nous a-t-il éreinté ou enchanté? On vous dira tout. Wally Wallou. Et bon, bah, je pense qu'on est prêt pour se lancer sur la BA de la semaine.
Oui. Allez, en avant.
Ouais.
Alors, en avant.
Tu me saoules avec ton truc.
Autrefois, le monde était rempli de merveilles. Tout n'était qu'aventure. Il y avait la magie. Mais elle n'était pas facile à maîtriser. Le monde trouva des méthodes plus simples. Pourtant, j'ose espérer qu'il reste un peu de cette magie en vous.
Votre père tenait à ce que je vous le donne une fois que vous auriez tous les deux passé vos 16 ans.
C'est un bâton de magicien. Papa était magicien.
Quoi ? Cher Yann et Barley, je vous invite à l'aventure. Vous devrez trouver le sortilège qui me fera revenir pour une journée. Ainsi, je pourrai voir ce que mes garçons sont devenus. Ramener à la vie ? Mais non, ça se peut pas.
Si, ça se peut. Avec ça !
Je vais rencontrer papa.
La magie ne dure qu'une journée. C'est notre seule chance de ramener.
Mais je suis nul en magie.
Il va falloir qu'il s'exerce un peu. Menton droit, épaules relevées, pieds écartés et le dos un chou
cambré.
Les épaules.
J'essaye de me concentrer.
Concentrage.
Ah, laisse tomber. Parlez. Oh non. Autrefois, le monde était plein de merveilles. Ils sont trop mignons.
Qu'est-ce que t'as dit?
Oh non.
Toi, t'es mort.
Je crois qu'il reste encore de la magie en chacun de nous.
C'est ça qu'il nous faudrait. Un sort pour créer une passerelle magique sur laquelle tu peux marcher. Si t'es persuadé que la passerelle est là, elle sera là.
Tu vas y arriver.
Waouh, je n'en crois pas mes yeux.
N'est-ce pas?
Ça a l'air extraordinaire.
Ça a l'air pas mal,
ça
effectivement.
Ça a l'air merveilleux.
Ce nouveau petit Pixar, et ben justement, on va en parler de la BA. La BA, elle s'ouvre sur...
Il manque... Parce que normalement, d'habitude, il y a les calculateurs
Je sais, oui, mais bon...
Mais d'ailleurs, il est où? Parce que d'habitude,
il prend de la place, là.
On peut s'en passer, hein, c'est pas nécessaire.
Pourquoi on s'en passerait?
C'est trop triste,
il est où? Je suis pas vraiment d'accord.
Je veux dire, les gens nous écoutent grâce à lui.
Bon, ok, faut que je vous avoue un truc.
Qu'est-ce que t'as fait?
J'ai essayé de modifier le calculateur ce week-end.
Oh merde.
Et non. Je l'ai cassé.
Ah, la bonne idée.
J'ai essayé de lui mettre un plugin.
J'ai essayé de le plugger.
J'ai essayé de lui mettre un plugin.
Et du coup, en le pluguant, je crois que je l'ai cassé.
Merde.
Et bon, après, pas de soucis, hein, il est sauvegardé dans le cloud. Mais là, si on l'appelle, en fait, ça va faire bizarre parce que comme il a plus son.
Est-ce que je peux garder un morceau en souvenir?
Du plug ou de calculateur?
Non, non, mais avant de commencer à parler de souvenirs et tout, parce que normalement il faut compter les plans de la BA. Enfin, moi là je suis pas du tout dans le mood de compter des trucs.
Bah, déjà, moi je peux pas analyser une BA si je connais pas le nombre de plans par seconde.
Ah ouais. Attendez, quoi, on est à 0,7, 0,6, 0,8?
Enfin, 0,9, je sais pas, on est dans la moyenne, en dessous de la moyenne, au-dessus de la moyenne. Voilà, je sais pas, en avant.
Ok. Bon, écoutez, on peut l'appeler, mais il est un peu plus bizarre qu'avant parce que du coup il a sa voix du cloud.
Bon,
et...
Ouais, mais sûr que tu exagères.
Bon, ok, allez, on passe à le calculateur.
C'est moi. Oui, c'est moi. Qu'est-ce que vous voulez ?
Ah, salut ! Non,
rigolez pas. Pardon. Bonjour, El Calculator.
Rigolez, va. Rends-moi mon corps.
C'est quoi cette vieille voix ?
Une voix de merde.
J'y travaille, t'inquiète, l'erreur est...
Rends-moi mon corps. Rends-moi mon corps. Rends-moi mon corps. Salopard de réparateur du dimanche.
Oh !
Ça va pas, il est devenu vachement vulgaire depuis la dernière fois.
En même temps,
hein.
Il s'est fait désosser.
Mais il est déjà... Bon, c'est pas un corps, El Calculator, c'est une carcasse. Arrête un peu, c'est pas un corps. Moi, j'ai essayé de t'améliorer, hein. C'est parti en sgeg, j'y peux rien.
Bon plugin, là.
Il s'est pris pour MacGyver.
Ah, il a toujours autant de réparties. Ah bah,
c'est vrai qu'en même temps, si t'essayes de le réparer avec un trombone et un bout de ficelle, ça.
On fait avec ce que j'ai. Hein,
Essaye de le plugger avec un plug, c'est sûr que ça marche moins bien.
El Calculator, sois gentil, s'il te plaît, donne-nous le nombre de plans dans la BA.
Non, je fais grève.
Il peut pas faire grève, c'est une machine.
Alors non, c'est fini la grève.
Allez, El Calculator.
Pas de corps, pas de nombre de plans. Pas de nombre de plans, pas de moyenne. Pas de moyenne, pas de palais. Pas de palais, pas de palais.
Ok.
Il y a quand même des références assez larges.
J'ai quand même gardé mon sens de l'humour. Ah, connard, rends-moi mon corps.
Non mais, je te jure que tu le récupéreras ton corps et le calculateur. Et t'inquiète pas, je t'en fais la promesse.
On se croirait dans un Cronenberg, ça me met mal à l'aise.
C'est terrible aujourd'hui, j'ai pas fait exprès. T'inquiète pas pour ça, donne-nous le nombre de plans, s'il te plaît.
Non.
S'il te plaît, calculateur.
Dans la BA2 en avant, il y a 62 plans en 1 minute et 47 secondes. Soit 0,6 plans par seconde. La moyenne quoi, comme d'hab. Bravo les gars, vous révolutionnez le podcast avec vos chiffres. Bande de sales fils de
pute. Oh là là. Oh là là, il est vénère.
Non, parce que connard, ça passe, mais faut pas aller.
Non, mais fils de pissenlit, c'est un peu dur.
Bon.
Non,
attends, mais il s'est pris pour cuit, lui. Bon, bah, en tout cas, on a eu nos nombres de plans.
On est sur 06, tout va bien.
Tout ça pour ça.
On est sur 06.
06, c'est la moyenne.
Pour ceux qui débarquent peut-être à cet épisode-là, oui, 06 plans par seconde, c'est la moyenne qui se retrouve. Dans les BA,
sur 80% des bandes annonces.
Donc ce qui veut dire que c'est une BA en fait plus ou moins agréable pour l'œil et qui ne prend pas trop à la gorge. Donc voilà. Bon, on va en parler de la BA. Bon, et le calculateur reviendra, j'espère, dans sa forme normale plus
si
tard.
Si t'arrives à le réparer,
à retirer le plug.
Il est bien enfoncé. Ce que
il est très très bien enfoncé, mais il avait l'air d'aimer au début. Enfin bon, bref. Alors la BA d'en avant s'ouvre sur un elfe touffu dans sa chambre qui allume la radio. Clic. Et qu'est-ce qu'il sort de cette radio? Je prends ma voix de radio.
Bah, du son.
Bravo. Autrefois, le monde était rempli de merveilles. Et la musique rock qui s'active. Et quoi que voit-on?
On voit un Pégase. Ça doit être produit par Tristar, c'est ça?
Non, mais on voit aussi un beau paysage qui ressemble beaucoup au paysage de Yukon. Avec des elfes et des licornes et tout ça.
Et si tu regardes bien, au fond, il y a Radegund.
Il y a un mec qu'il faut je déblaye.
Il faut suivre les épisodes pour comprendre toutes ces blagues. Voilà, dans une vallée étrangement belle, hein, qui est avec des belles montagnes.
La vallée des merveilles avec petits pieds,
c'est super ciel bleu.
Où sont réunis sirènes, magiciens et autres sorcières, et j'en passe, de créatures mythiques et magiques. Et on voit un magicien qui tire des feux d'artifice.
Oui.
Qui rappelle étrangement du coup
Gandalf.
Effectivement, dans la communauté de l'anneau, à son bâton, ça y ressemble en tout cas. Puis donc voilà, des centaures, des cyclopes. On est bien dans un monde féerique pour le coup, c'est très bien exposé à ce moment-là. La voix off de la radio continue. Alors, autrefois, le monde était rempli de merveilles, mais elle n'était pas facile à maîtriser. Le monde trouva des méthodes plus simples. Ouais. Quelles sont-elles ces méthodes?
Le smartphone, l'avion, la voiture, enfin tous les moyens modernes pour. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire.
Pour devenir des assistés.
Mais bien sûr.
Et voilà. Déjà, en fait, ça part d'un postulat de base qui est faux, parce que je suis désolé, mais transplaner, c'est quand même beaucoup plus rapide que prendre l'avion, parce que l'avion, déjà, tu dois arriver au tarmac, tu dois arriver 2 heures avant, après, tu dois prendre l'avion,
oui,
ça dure
8
heures.
L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Nous, on rêve de transplaner.
Mais non, ça montre
qu'on
est dans une société de feignants, là, on a besoin d'être assisté en permanence. Tu vois, même un plan d'une fée qui arrive en volant pour prendre l'avion. C'est totalement con.
C'est très
tu vois.
Enfin, vol, toi, au-dessus de l'Atlantique.
Mais j'ai pas d'aile.
Bah, si t'en avais, à mon avis, tu ferais pas beaucoup. Hein.
Ah bah, après, je serais en bonne forme, tu vois.
On en reparlera. Mais en tout cas, le contexte est très bien exposé dès ce moment-là. Nous serons dans un monde magique, mais décalé, calqué sur le nôtre. Et la voix continue. Hein. Donc la magie, avant et tout.
Et du coup,
machin.
Tu disais que c'était une radio, mais il me semble qu'on voit sur une image que c'est une cassette avec écrit date.
C'est un radio
c'est un magnétophone.
On y arrive justement à ce moment-là, et là, on le découvre dans la bonne annonce. Du coup, je pense que c'est l'enregistrement du père de ce.
Non,
ce
il y a marqué papa sur la cassette.
Non, il y a écrit date, c'est juste.
Il y a
son
des
nom.
Indices. Oui. Pourtant, j'ose espérer qu'il reste un peu de cette magie en vous. Et voilà, ça, c'est de l'exposition, les gars, dans une BA 20 sur 20, bim, en quelques secondes, clac.
On a compris.
Posé.
On a compris.
Bravo.
On a un gars qui écoute son père sur enregistrement. On a le contexte qui est exposé par des images d'illustration. Et donc le papa qui laisse un message à son gamin. On comprend que c'est son fils, du coup, à ce Linguini bleu. J'ai envie de l'appeler comme ça.
Ce Linguini.
Linguini.
Mais il a une tête de Linguini. Pour ceux qui connaissent Ratatouille, c'est le.
C'est le
héros. Ah d'accord, je crois que tu parlais des pattes.
Il ressemble pas du tout à des linguinis.
Limite, ouais, il a des jambes assez fines et longues.
Limite, t'as des barbes.
J'étais à deux doigts d'aller chercher sur Google la tête d'une linguine.
Ça a parlé.
C'est,
oh,
c'est
joli.
C'est clairement l'archétype un peu du personnage Pixar, très longiligne, avec un visage long et fin.
Et tu sais, Erwan, je trouve qu'il te ressemble un peu.
Oui, bah long et fin avec un gros nez.
Non, moi je trouve qu'en vrai, je trouve que son père, parce qu'on le voit, le père, je trouve que Erwan ressemble plus au père de Linguini bleu.
Mais on le voit pas, le père.
Mais si, ça, on voit sur une photo.
C'est parce que j'ai une barbe, donc du coup, mais enfin, Linguini, c'est moi jeune. Hein.
Bah en fait, c'est peut-être l'histoire de ta famille. Hein.
C'est ça, en fait. C'est
tu
mon
étais bleu avant, c'est ça, hein. Tu fais du white face, Erwan.
Tout à fait.
Tu fais du white face. Non, mais je vais te faire un procès, Erwan, ça se fait pas d'être raciste comme ça.
Alors, le panneau numéro 1 qui se montre dans la BA sur un brum d'Inception, j'appelle ça comme ça. Brum.
Là, c'est plus un brum.
Oui, bon, on va pas discuter onomatopée, mais vroom. Et du coup, qui lance la BA et qui nous indique, qui nous montre, si vous aviez une chance de tout changer, à la suite de laquelle on découvre la vie de famille de cette famille elfe, hein.
Oui.
La maman qui sort du grenier un petit quelque chose pour ses deux frères, parce qu'on voit le frère.
D'ailleurs, c'est longiligne aussi.
Oui.
Et on comprend du coup qu'il y a deux frères dans l'histoire parce qu'elle leur dit, il y a un cadeau de votre père. Qui vous réservez une fois passé vos 16 ans. Et quel est donc ce cadeau?
Un Imbus 2000.
La blague.
Mais non.
C'est un Imbus 2000, incroyable.
C'est un bâton.
C'est le bâton
de
Gandalf.
C'est un éclair de feu.
C'est un bâton. C'est le bâton de Gandalf.
Oui, c'est le bâton de Gandalf, c'est tout le même presque.
Est-ce qu'il n'y aurait pas une inspiration déjà de ce côté-là? Parce que vraiment, il ressemble vraiment au bâton de Gandalf, le gris, attention, je précise.
Oui, parce que le Gandalf le blanc, un bâton qui finit par un hexagone ou un pentagone, enfin un truc pointu.
Et... Non, mais après, c'est un bâton de magicien classique, mais peut-être que le père de ce héros, c'est Gandalf. Peut-être.
Bah,
peut-être tiens un truc là.
Ah, tiens un truc.
Peut-être à l'époque Gandalf était un petit chaud lapin. Il se baladait dans la forêt et clac, un enfant. Donc oui, on comprend que leur père était magicien parce qu'ils le disent de voix haute. Papa était un magicien, il avait un bâton et tout. Le panneau numéro 2 qui nous dit laissez la magie vous surprendre.
Et ils ont l'air refait nos jeunes héros de renouer avec la magie.
Mais t'es sûr que bah, j'ai quand même un truc. La première fois qu'on voit le frère de Linguini,
tu
dis que c'est un peu le fils du facteur parce qu'il est totalement inverse, quoi. Lui, il est gros balèze musclé, tu vois.
Ouais. Lui, il fait Linguini, du football américain. Maigre, alors que Linguini, il est dans le club majorette, quoi.
Je t'explique. En fait, dans tous les dessins animés comme ça, t'as toujours, quand t'as des frères et sœurs, celui qui ressemble au père et celui qui ressemble à la mère.
Mais la mère, elle est pas balèze.
La mère, elle est balèze. Si, si, elle est un peu grosse. Elle est un peu grosse. Non, mais clairement, le grand frère ressemble à la mère et le héros à la morphologie de son père. Okay. C'est un grand classique.
Et la mère me fait penser, elle, par contre, à Tristesse.
Oui. On dirait Tristesse avec des oreilles.
A grandi avec des oreilles de.
Ça, c'est parce qu'elle est bleue, tout de suite.
Parce qu'elle est bleue, parce qu'elle a des lunettes et parce qu'elle est forte.
Moi, elle me fait penser à un schtroumpf parce qu'ils vivent dans des champignons. Oui. Ils sont bleus, voilà.
C'est exactement
ça. C'est pensé à ma CPE en 5e.
Ces deux personnages me font penser à la limace dans Monstres et Compagnie.
Ça te fait un plan.
Non, mais pour venir aux origines du personnage, parce que voilà, il y a Vice Versa, il y a En Avant, et puis bah en fait, avant tout ça, il y a Monstres et Compagnie.
Peut-être que ce film est juste le résultat de la partouze de tous les 21 premiers films Pixar.
Ils se sont trouvés en réunion en mode Disney, ils se sont dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah, ça a marché.
Ouais, faites les baisers, puis on verra ce que ça donne. Bim, en avant.
Ce que t'as essayé de faire avec Calculator d'ailleurs.
Chut.
Pardon. Je dis pas tout.
Je voulais pas finir en hashtag. Donc la lettre du père, parce qu'il y a une lettre qui accompagnait avec ce petit cadeau très sympa.
C'est au cas où la cassette marche pas. Ouais.
Alors, instant mélo, cher Yann et Barley, je vous invite à l'aventure. Vous devriez retrouver le sortilège qui me fera revenir pour une journée. Ainsi, je pourrai voir ce que mes garçons sont devenus. Donc on comprend du coup que
il a dû mourir ou disparaître quand ils étaient tout jeunes. Et il veut les revoir une journée.
Oui, donc le père déjà est mort, ça c'est clair, mais par rapport à une journée, je comprends pas.
Bon, on saura peut-être en regardant le film.
Oui.
Après, le coup d'une journée, en fait, c'est pas montré dans cette bande-annonce-là, mais moi j'ai lu et vu d'autres choses qui me font comprendre que c'est un enjeu du film. Le délai d'une journée. En fait, ils vont être un peu contre la montre pendant une journée pour retrouver leur père.
Ça va rajouter un peu de tension et on découvre le papa sur des photos de famille. Par contre, on voit surtout que le frère aîné, c'est le gars qui va au Elfest, là, l'elfe.
Clairement.
L'elfe Fest.
Oh, Elfest. C'est très joli.
Ah, tiens, ça fait un titre, ça.
Ça fait un titre.
Et je crois, du coup, c'est mon imagination, que du coup, le Linguini, il n'a pas connu ce papa. Vraiment.
Oui. Mais ça d'ailleurs, parce que tu parlais d'une autre bande-annonce, mais il y a dans la bande-annonce américaine, on comprend que... Alors c'est pour ça que je me demande s'ils sont jumeaux ou pas du tout, parce qu'il y en a un qui l'a connu et l'autre qui l'a pas connu.
Non, bah, non parce que sur une photo de famille, on voit justement la mère qui est enceinte et le petit qui est déjà là.
Mais alors pourquoi quand vous aurez 16 ans, et pourquoi c'est Linguini
qui a 16 ans? Parce que c'est le plus jeune qui a 16 ans, c'est le héros.
Ah oui, il fallait attendre que les deux aient 16 ans.
Puis oui, mais ça a l'air d'être lui le héros, parce que justement, dans la mission que leur donne leur père, en fait... bon, déjà il est plutôt content de rencontrer papa, hein, c'est ce qui me fait penser aussi qu'il l'a jamais vraiment rencontré, Linguini quoi. Donc après la fameuse pancarte d'une BA Pixar, hein, qui dit par les créateurs de Toy Story indestructible Coco, est-ce qu'on doit encore vraiment le rappeler, ce genre de choses?
Il y a des gens qui le savent pas, hein.
Voilà. Bah non, mais justement parce qu'il y a des gens qui le savent pas, et enfin par exemple pour moi c'est tout est Pixar, c'est-à-dire que moi il y a pas de créateur de tel Pixar ou tel Pixar, pour moi c'est Pixar qui est au-dessus, et enfin je sais pas, je vois pas à quel point cette précision est importante.
Et surtout comment ils choisissent les films à mettre. Bon, il y a Toy Story qui est toujours là parce que bon, tu sens que c'est le pilier quoi. Ouais. Là, Indestructible et Coco, dans le choix sur une vingtaine de films, ils ont préféré choisir ces films-là.
Peut-être... C'est les plus récents.
Coco, peut-être aussi que... c'est ceux qui vont montrer peut-être l'essence de ce film-là. Il y aura de l'action à la Indestructible et de la magie, l'émotion à la Coco.
Non, je crois que c'est juste comme dit Clément,
c'est les plus récents. Les Indestructibles 2 sont sortis il y a pas longtemps et Coco aussi est le plus récent.
Ils ont pas mis les Indestructibles. Ah, blap, les dindes, c'est dur à dire.
Ouais, ils ont pas
mis en version québécoise.
The Incredibles, les Incroyables.
Les Incroyables.
Ils ont pas mis les Incroyables 2, ils ont mis les Incroyables 2.
Ouais, mais parce qu'en fait, ça englobe la série. Tu vas pas pinailler non plus.
Il va pas pinailler. Donc, du coup, on continue dans la BA sans pinailler. Alors, on apprend autre chose, là, dans la BA, du coup, qui vient rajouter ce qui était dit dans le message du papa, dans la lettre, c'est que la magie ne dure qu'une journée et que c'est leur seule chance d'y arriver, donc
c'est sûrement parce que c'est un sort spécial.
Mais il se passe quoi dans ce monde? Peut-être qu'il y a juste une journée où la magie est ouverte, parce qu'ils ont l'air d'y avoir renoncé en fait à la magie. Ils sont tous des créatures magiques.
Ouais, mais on a vu la fée arriver en volant.
Ouais, mais ils ont quand même
au début.
Moi, je pense que c'est plutôt que tout le monde a oublié la magie, ce qui est de jeter des sorts et d'utiliser la magie. Ce sont des créatures magiques, mais ils sont devenus vraiment comme nous. Et du coup, ils ne maîtrisent plus la magie. Et lui, il la maîtrise. Il a laissé le mode d'emploi d'un sort en particulier. Et ce sort dure une journée. Après, ça, c'est pour la tragédie que ça dure une journée.
C'est bizarre parce que si on partait sur une quête vraiment pour ramener la magie, pourquoi est-ce qu'il aurait dit, bah, en fait, je voulais juste le mode d'emploi d'un sort et vous l'utiliserez une
fois? Mais non, mais c'est pas une quête pour ramener la magie, à mon avis. C'est plus une quête pour voir leur père et aller à la recherche du père. Et ça se fait par la magie.
Après, je crois surtout que la magie a déserté le monde parce que plus personne l'utilise. C'est des schémas narratifs que tu as tout le temps. C'est comme le Père Noël, plus personne n'y croit, donc il dépérit. Donc là, à mon avis, il n'y a plus assez de magie dans le monde pour nourrir les sorts, et donc ils ont que 24 heures.
Il faut croire dans les choses.
Comme dans Peter Pan avec la flicochette. Si on n'y croit pas, il se passe
rien. Oui, bah oui, peut-être. Peut-être que c'est ça. Peut-être que il y a peut-être un jour dans la journée, je sais pas, la Saint-Gandalf.
À la Saint-Barthélemy.
Il y a un carnaval et tout.
Tous les 29 février.
Ou peut-être que la magie c'est devenu une drogue trop dure et du coup ils n'autorisent qu'une fois par an.
C'est vraiment un père nul qui a pas du tout envie d'assumer ses gosses et voilà, une journée mais pas plus quoi, les gars.
Il est pas mort. Il s'est juste barré avec une petite elfe, de 20 ans d'écart, là, et tranquillou, à Ibiza, enfin, version elfe.
Il lui fait croire qu'il y a un vieux tour de magie alors qu'il est dans le PMU d'à côté.
ça leur fera les pieds, allez.
Il va arriver, bravo, t'as découvert les sortilèges, allez, on passe une bonne journée ensemble.
Ça les occupera, comme ça ils ne trouveront pas ces petits cons.
En tout cas, ce qui est dit là, et ce qu'on comprend, c'est que ce sera Linguini qui sera chargé de lui d'être le magicien de la famille.
Ouais,
là,
alors
je comprends pas pourquoi.
Ça, c'est un truc qui m'énerve, et c'est dans beaucoup de films, c'est... T'en as un qui comprend, un qui comprend pas, et c'est celui qui comprend pas qui doit faire. C'est-à-dire que son frère, lui, il sait tout, il dit bah voilà, fais ci, fais ça, imagine. Bah en fait, si tu sais, prends le bâton et fais-le. En fait, enfin c'est.
Bah peut-être qu'il y a une subtilité dans le film. Qui...
Ouais,
peut-être
mais ils vont trouver un truc. Genre il est eunuque et du coup. Ouais.
Mais après, je pense que c'est un film qui parle vraiment de la fraternité entre les deux frères et que le grand frère a le rôle du guide et de celui qui va donner confiance à notre héros et peut-être qu'il a l'impression d'en savoir beaucoup, mais qu'il en sait pas tant que ça en fait. Et enfin voilà.
Ouais, non. Mais je voulais juste parler de ce schéma qu'on trouve dans pas mal de films, surtout de films d'animation.
Après, il faut peut-être être maigre pour faire de la magie en ce moment, tu vois. J'en sais rien. Hein. Peut-être qu'il est trop gros, lui.
Il y a peut-être une pesée au départ, je sais pas. Il y a peut-être des gars qui sont là, des juges, ils les pèsent. Pas toi, non, t'as trop mangé de.
Plus de 80 kilos, c'est mort.
Putain, c'est pas possible, il nous faut des maigres, des maigres relais. Bah, ou bien peut-être que c'est juste les gars de 16 ans qui peuvent la faire. Enfin, je sais pas, on verra, on découvrira ça, mais en tout cas, c'est assez mystérieux de ce côté-là. Ou peut-être parce que c'est lui qui prend le bâton, peut-être qu'il y a une espèce de lien qui se crée.
Oui, il y a peut-être une raison très précise dans le film.
On verra
Peut-être que le frère, il aura un autre bâton plus tard.
Et on découvre du coup à ce moment-là dans la
c'est
BA, on découvre le monde un peu plus en détail, ce monde magique mais qui ressemble étrangement au nôtre, avec des petites particularités. Donc la banlieue, oui effectivement, là où ils vivent, donc des maisons mushroom. Je crois que la ville s'appelle Mushroom
j'adore,
Town.
J'adore. Donc, si j'avais une maison comme ça, je la boufferais. J'adore les champignons.
Ça rappelle les Shrooms, ça rappelle Alice au Pays des Merveilles. En tout cas, bah, tu sens qu'il y a déjà une réflexion à la Pixar derrière. La ville aussi, la ville qui ressemble beaucoup à la nôtre, qui rappelle un peu Los Angeles pour le coup. Qui rappelle un peu les.
À notre ville, tu veux
dire. Les suburbs. Oui, nous vivons non, à Los Angeles.
Je veux dire notre ville, nous, en tant qu'occidentaux.
Ah oui, il y a des poubelles, il
voilà,
y a
les
des
auditeurs
rues.
Seront déçus, mais on n'habite pas à Los Angeles.
Il y a des poubelles, il y a des rues, il y a des voitures. Il y a des voitures qui sont, du coup, en plus, comme les nôtres, tout simplement. Il y a deux lunes dans ce monde, je ne sais pas si vous avez fait gaffe.
Oui, oui, oui.
Il
oui.
ouais. y a deux lunes. Et ils prennent le van du frère, hein, le van du frère qui est très rock'n'roll, hein, qui est très metal rock'n'roll.
Ouais,
qui
il
est très,
dessus, quand même.
C'est Pégase, c'est pas une licorne.
C'est pareil.
Et on peut voir dans ce, à ce moment-là aussi, dans cette petite déroulée d'images, qui vont finir dans la grotte de Lascaux.
Oui.
Il y a un plan où il y a des peintures rupestres de magiciens.
Mais c'est un Gandalf qui est dessiné sur la
ouais.
grotte.
Ouais.
C'est la grotte de Gandalf.
Elles sont en terre du milieu, c'est sûr.
Et il y a une troisième personne avec eux, en silhouette, qu'on découvre. Mais qui est-ce ? Parce qu'on ne voit pas cette autre personne.
C'est sûrement le comic relief.
Je pense que c'est le love story, à mon avis.
Le love story ?
Oui, parce qu'on ne voit pas beaucoup de.
C'est vrai qu'il n'y a pas de.
Il n'y a pas de fille, ouais.
Il n'y a pas de fille, il n'y a pas de love story, en fait.
Bah, il ne passe pas le test
de. De Bechdel.
De Bechdel. Hein.
Après, peut-être que c'est une histoire d'amour entre frères. Enfin, tu sais, ça se fait de plus en plus sur les internets. Sur les sites.
ça, ouais, on ne veut pas savoir.
Il y a une catégorie porno là-dessus.
Ouais. Step Brother.
Mais du coup, le Linguini, bon, voilà, il est pas calé en magie. C'est ce que nous fait comprendre la BA dans sa suite, parce que on le voit feuilleter des livres de magie, et c'est son frère qui va lui enseigner, on va dire, à formuler des sorts, à maîtriser la magie. Donc le frère, c'est la théorie, et enfin le et grand frère, c'est
Linguini,
la théorie,
c'est
le petit
pratique,
frère, c'est la pratique.
Il lui enseigne surtout à se mettre cambré pour lancer son sort.
Qu'est-ce qu'il fait ? Oui, genoux relevés, non pas genoux relevés, épaules relevées, genoux fléchis, dos cambré.
Ça me rappelle encore cette vidéo
cambré.
Que j'ai vue sur les ouais, internets.
Dos cambré, hein.
Step Brother.
Step Brother, mais direct.
Concentrage, parce que là il lance un sort sur un jerrycan. Alors ils font un test sur un jerrycan. Pourquoi ?
Bah pour mettre de l'essence dedans.
Peut-être ouais. des gilets jaunes qui ont trouvé une solution
non, mais c'est
du carburant.
En fait, ils sont déjà dans la magie noire. Ils essaient d'utiliser la magie à leur fin pour... Voilà, c'était ma théorie.
Mais non, mais tu sais, c'est comme quand les jeunes Américains, ils apprennent à tirer dans les terrains vagues sur des bouteilles qui sont posées sur des jerrycans.
America.
Ils le font à cet endroit-là.
Ah, le rapprochement.
Ah, c'est un film américain, faut pas ouais. l'oublier.
Et on voit qu'il y a encore une autre personne qui est derrière, mais qui est, disons, mal proportionnée. Vous avez pas fait gaffe ? Dans
non,
le
non.
flou derrière, quand ils apprennent à tirer sur les jerrycans, on voit qu'il y a un mec avec un anorak, enfin une espèce de doudoune.
C'est un pantin ? C'est un
épouvantail ? Non, c'est
peut-être le papa ? Je sais pas.
Oui,
non.
Un épouvantail.
Mais je pense que du coup, c'est cette
troisième
personne.
Pour moi, c'était un épouvantail sur lequel ils s'entraînaient à tirer. Mais...
C'est un monde féerique, hein, donc c'est peut-être que c'est un peu le monde d'Oz aussi. Du coup, il y a des épouvantails, des.
Des lions, des robots.
Mais ouais. C'est peut-être du coup cette troisième personne aussi qu'on voit dans les grottes de Lascaux. Je viens de faire l'approchement. Tout simplement. On en apprend tous les jours avec ces télé.
Pour une
carte numéro
4,
on arrive à la fin de la BA déjà parce qu'elle va assez vite. Pancarte numéro 4, croyez en la magie. Encore un petit ordre de Disney. Hein ouais, je fais ce que je veux déjà si je veux.
Ouais. Everything is magic, oh yeah. Croyez en vos rêves.
Magic everywhere is a ton of magic.
Voilà.
On continue l'aventure, les amis, en suivant le van hein, qui traverse des forêts, mais magnifiques, avec de très grands arbres qui rappellent un peu Jacques et le haricot magique.
La forêt de Fangorn.
La forêt de Fangorn, oui. La forêt de Silvebarbe dans le Seigneur
des
Anneaux.
Nous avons un fan du Seigneur des Anneaux autour de la
on
table.
On a un fan des deux
essayez
tours.
De le trouver.
Un des trois.
Parce que ça fait aussi penser à la forêt de Fontainebleau, mais ça, tu t'en fous.
On s'en fout des coudes, la forêt de Fontainebleau, qu'est-ce qui se passe ? La forêt de Fontainebleau, il y a des arbres qui bougent ? Non !
On a l'introduction des fées à ce moment-là.
Pour moi, c'est pas des fées, il faut être plus précis, ce sont des pixies. C'est mini-fées.
Excusez-moi, madame la connaisseuse.
Ce sont des mini-fées. Je sais plus la différence avec les vraies fées, mais en gros, c'est des petites fées hyper vives et tout. Et souvent, on les représente un peu en mode comme ça, un peu énervé, un peu punk. Enfin, je trouve que là, le code qui est utilisé en les mettant en mode punk à chien.
Bah là, c'est des, c'est des bikeuses, c'est des fell angels.
Des bikeuses, alors mini mais grosses motos, toutes petites mais grosses motos, du coup, qui vont en plus se fighter, du moins se provoquer avec le mini. Le mini frère,
ouais, parce
celui
que
qui a rétréci. Ouais. Parce que c'est ça aussi qu'on n'a pas dit, c'est que dans le sort qu'il lance dans le jerrycan, ça se retourne contre lui. C'est le frère qui rétrécit, donc ça va apporter aussi une belle péripétie dans le film, ça. Il devra se trimballer son frère dans la poche.
C'est au moins un tiers du film, hein, je pense.
Ah, tu crois qu'il va rester petit pendant tout le film ?
Pendant un
moment,
je ouais.
pense qu'il va y avoir cette caution un peu humour. Ouais.
Mais grâce à sa petite taille, il va quand même réussir à résoudre, à mon avis, un problème important dans le film. Oui.
À un moment,
un
il va devoir
Buzz
rentrer
l'éclair,
dans une série.
Un peu comme Buzz l'éclair quand il devient
espagnol.
Pas petit, mais quand il parle espagnol.
Ouais, subtilité de scénario, mais oui, bah, ça va être ça. Et puis je pense que ça va surtout être un moyen pour le frère d'apprendre à se débrouiller par lui-même aussi, peut-être, de ce côté petit, genre son grand frère devient petit, tu vois. Tu vois l'image,
ouais.
tu comprends
ouais,
le truc.
Ouais. Non, mais c'est de la symbolique très forte.
Après le panneau numéro 4, croyez en la magie, il y a aussi croyez en vous-même, car chaque personne de ce monde est magique.
Car la magie est en nous,
c'est tellement beau, quoi.
Oh là là.
Ah, c'est beau.
Et c'est ce que dit la magie est en nous, justement, et c'est ce que dit Linguini sur cette dernière scène de Béa. Je crois qu'il reste encore un peu de magie en chacun de nous. Et on a cette fameuse dernière scène que Clémence aime particulièrement.
Ah oui, j'adore. Je trouve ça. Oui, ça m'émeut beaucoup que cette Béa finisse comme ça, parce que du coup, on se retrouve face à un grand gouffre qui sépare le monde en deux. Et donc, on a presque l'impression qu'il va y avoir autre chose derrière, un autre territoire. Et donc, ils ne peuvent pas le traverser. Donc, le grand frère dit le top, ça serait qu'avec ton bâton magique, tu puisses faire une passerelle magique pour pouvoir traverser. Et en fait, alors c'est vrai que je n'avais pas trop compris. Je pensais qu'il allait le faire avec son bâton. Mais en fait, en gros, le héros va mettre un pied dans le vide en essayant d'imaginer, de visualiser dans sa tête la passerelle pour faire en sorte qu'elle existe. Et du coup, la Béa s'arrête à ce moment-là, au moment où il met le pied au-dessus du vide et cut et apparition de titre
apparition
en avant.
Titre
et
en
moi,
avant.
J'adore parce que ça fait vraiment fin de Béa qui t'interpelle, toi, spectateur, par rapport à tout ce qui a été dit avant, en mode, est-ce que vous croyez à la magie ? À votre avis, est-ce qu'il va s'écraser comme une grosse merde ou est-ce que... il va réussir à traverser.
Il va s'écraser comme une grosse merde, hein. Ça c'est sûr. C'est
bah
pour
non, moi
faire
j'y crois, qu'il va y arriver.
Mais moi je pense que c'est un complot de Pixar. En fait, ils ont racheté le Père Noël à Coca-Cola. Ils prévoient de le rebalancer dans 3 ans. Là, dans 3 ans, ils vont faire un gros coup Père Noël. Et du coup, ils sont en train d'envoyer des petits messages et tout, de préparer le terrain.
J'ai pas compris.
Croyez à la magie. Bah, je sais pas.
C'est dur de te comprendre. J'ai pas compris non plus.
Non, mais tu.
Mais si, c'est le fait de croire au Père Noël.
Ah oui, c'est
vrai que plus la BA avance et plus il te martèle croyez en la magie. Puis à la fin, t'as cette scène où en fait, la magie, c'est pas le bâton, la magie, c'est toi, tu vois.
On va se faire entuber magiquement.
Croyez en la magie, achetez du Coca-Cola. Croyez en la magie. Buvez du Coca. Croyez en la magie. Et donc, oui, ce pas en avant, du coup, final, marque la fin de la BA et donne sens au titre, donc voilà, ça fait sens. En avant, le 4 mars, fin de la BA.
Non mais du coup, je trouve ça super cool en plus que ça termine comme ça, parce que souvent maintenant, tous les films d'animation, on sent qu'ils se sentent obligés toujours à la fin d'une bande-annonce de mettre un dernier gag ou un truc qui est censé te faire rire en mode oh, ça donne envie de le voir. Et là, en fait, ça reste vraiment en mode suspense et c'est ça qui m'a plu.
Mais pas chez Pixar. Chez
c'était un cliffhanger et en plus, il est au bord d'une falaise, donc ça porte bien son nom.
Comme Jimmy Cliff.
Mais eux, avec leur technologie, là, ils auraient pas pu traverser le gouffre autrement. Je sais pas, un petit jetpack.
Je suis sûr qu'il y a un pont à 2 mètres. Hein.
Une petite corde.
Ils ont des avions.
Ils auraient été dans Luigi's Mansion. En fait, ils avaient la lampe spéciale pour faire apparaître les éléments qui sont cachés.
Et dans Zelda, t'as un grappin.
Ouais, ils auraient été dans DBZ, ils auraient volé. Hein.
Mais il y a une scène comme ça dans Indiana Jones.
C'est
le dernier.
C'est le 3.
Enfin, le dernier, pardon, c'est vrai qu'il y a eu un 4 après.
La dernière croisade.
La dernière croisade où t'as Indiana Jones qui se lance aussi dans le vide sur ce pont. Mais après, c'est une illusion d'optique, c'est pas vraiment pareil.
Et en fait, il y a vraiment un pont.
Ouh,
ah oui,
ouh,
là,
c'est
là.
Vrai, je m'en souviens.
Histoire de pont. Mais bon, cette BA terminée, cette BA féerique, cette BA magique, Pixar enchanteur, est-ce qu'elle vous a donné envie de voir le film ? Toi, Clémence, ça t'a donné envie de voir le film ?
Oui, ça me donne très envie parce que j'adore l'univers. J'adore toutes les créatures fantastiques. Ça fait très cryptozoologie, encore une fois, comme quand on parlait de Monsieur Link sur un autre registre pour les Oscars.
Très bon film aussi,
toutes
Monsieur
ces
Link.
Créatures qui sont un peu le folklore de plein de pays, de plein de légendes. Et je trouve ça super cool de voir tout ça rassemblé. En plus, ça a l'air magnifique. Et après, l'histoire, on ne sait pas trop exactement ce que ça va être, mais j'aime bien. Qu'il y ait beaucoup de mystère.
C'est vrai qu'il y a du mystère et ça, c'est cool. Toi, ça t'a donné envie de voir le film Erwan ?
Bof. Non, pas des masses. Déjà parce que de base, je suis pas un grand féru de dessin animé.
C'est pas un dessin animé. Alors
c'est,
ça, il va falloir qu'on fasse une pause.
De film d'animation.
Voilà.
Excusez-moi.
Parce que les gens qui disent dessin animé, en parlant
de. Il y a plus
de
dessin.
Non, en plus c'est pas vrai parce que au final, il y a beaucoup de films d'animation que j'aime bien parce que justement, on vient un peu. Ces films en fait qui sont à destination des enfants mais qui sont au final écrits pour des adultes et je trouve ça vachement bien. Là, c'est, j'ai envie de dire, du classique Pixar où c'est un peu un peu confus en fait. J'ai pas l'impression que ça soit vraiment destiné à des adultes et à la fois j'ai pas l'impression que ce soit très enfantin non plus. ça va être un peu tout public, ou vraiment moyenne. Et au-delà de ça, en fait, c'est la thématique que je trouve on retrouve beaucoup chez Pixar. C'est l'absence du père, c'est la quête de une quête familiale, en fait, tout ça. Bon, je
la confiance en soi, la recherche de la confiance en soi.
Avec le petit Linguini qui est tout. On l'appelle Linguini.
Ce sont des thèmes qui parlent.
Qui parlent, mais en fait, qui sont énormément traités et donc du coup, bon, c'est vrai que j'aurais bien aimé voir un peu peut-être. Après, peut-être.
Mais je pense
que
tu peux être surpris parce que Pixar, ils ont. Bon, après, c'est vrai que c'est leur recette justement et c'est ce qu'on apprécie chez eux. C'est que leurs films d'animation sont toujours à double lecture.
Là où justement j'ai peur pour ce film, c'est qu'en fait il va y avoir, j'ai pas l'impression qu'il y ait une caution adulte. En fait, c'est des ados. Les adultes ont pas l'air vraiment de, enfin parce que dans les autres Pixar, c'est pas forcément des adultes, c'est parfois aussi des créatures ou des trucs comme ça, mais qui sont un peu, on va dire plus désabusées, plus violentes un peu dans leurs propos et du coup qui viennent bien contrecarrer avec ce côté enfantin. Là, c'est des ados qui sont un peu livrés à eux-mêmes. Ça va être, enfin c'est là en fait l'image moyenne que j'ai. Vraiment le côté tout public, c'est-à-dire qu'on vise des ados, ça va aussi bien toucher les enfants que les adultes.
Il me semble que ce qui te dérange en fait, c'est que, comme tu disais Romain, avant Pixar affirmait vraiment le double niveau d'âge et de lecture, et peut-être que maintenant, avec tous les succès qu'ils ont eu et la caution, la légitimité qu'ils ont en tant que studio, ils font plus cet effort-là de dire vraiment c'est sur deux niveaux. Ils sont au contraire dans une posture de on n'est pas dans une case et c'est pour tout le monde. Et du coup, voilà, ils s'en fichent un peu peut-être de montrer des personnages adultes ou des personnages enfants. Ils montrent leur histoire et on sait tous quand on apprécie Pixar qu'il y aura forcément des choses pour nous et qu'il y aura que ce sera de la qualité de tout. De toute façon.
Ouais.
Non mais voilà, je vois ce que tu veux dire, c'est qu'effectivement la cible n'est pas évidente.
Bah ouais, enfin je pense pas que moi ça va me toucher particulièrement. Après je demande qu'à être surpris quoi.
Et toi Kevin, tu te sens ciblé par cette BA quand tu la vois ? Qu'est-ce que ça donne envie de le voir ?
Ciblé, je sais pas, mais j'ai envie de le voir déjà parce que c'est Pixar et Pixar c'est bien. Enfin, en général,
je valide, je plus sois.
Ouais, de résumer mon raisonnement.
Voilà, Pixar, c'est bien. Et puis, parce que c'est de la fantasy, j'aime bien aussi. Et puis, je crois que cette BA nous montre pas tout du tout. Et que je crois qu'on va être surpris. C'est souvent le cas avec Pixar, avec les BA de la plupart des Pixar. Souvent, la deuxième grille de lecture, ou vraiment la finesse qu'il y aura dans la narration, et puis même les gags, ou juste visuellement ce à quoi on peut s'attendre, n'est pas dans la BA. Très souvent. Et donc, ouais, j'ai hâte de découvrir.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Hein. On l'a dit, 62 plans dans la BA, c'est pas beaucoup.
Ouais. Puisque dans le film, il y en a 65. Donc
voilà, et puis, c'est pas trop décousu. Tu fais quand même un peu le tour de leur univers, de cet univers-là. Mais tu vois pas beaucoup de choses. Et ça m'intrigue beaucoup de découvrir tout ce qui est caché, tout ce qu'on voit pas. Par contre, j'ai énormément confiance hein, pour donner mon avis moi, sur ce film qu'on nous annonce. Moi, Pixar, ils te font une BA noire, d'un écran noir pendant 18 minutes. J'y vais quand même hein, parce que j'ai entièrement confiance en ce studio avec qui j'ai grandi depuis le début. Je suis un énorme fan d'animation, toute animation confondue. Et Pixar est dans le top 3 de mes studios préférés, vraiment. Et donc, totalement confiant. Je pense qu'il y aura beaucoup de poésie, il y aura beaucoup de tendresse, beaucoup d'action, d'humour. Comme ils savent le faire, je pense que les parents vont s'y retrouver comme les enfants. Peut-être plus sur ce coup-là, peut-être, parce qu'il y a toujours des petits films transitoires comme ça. Je rappelle qu'il y a quand même un autre film Pixar qui va sortir cette année qui s'appelle Soul, qui a l'air aussi peut-être beaucoup plus intense dans le domaine narratif parce que ça parlera d'âme et de mort et de vie. Donc,
beaucoup plus artiste, entre guillemets.
Beaucoup plus vice-versa, dans le coup, pour le coup. Donc peut-être que ce film-là sera plus destiné, Soul, à nous, adultes, et qu'en avant, donnera un petit bout de beefsteak à grailler en attendant le vrai chef-d'œuvre de l'année de Pixar.
Attendant Noël.
On en reparlera, ça, là, on a envie, parce que moi, les Pixar, j'ai envie de les mettre au programme de cette émission tout le temps. Si seulement il n'y avait que ça, ce serait cool.
Mais ce n'est pas le cas. Reste plus qu'à aller le voir.
Ouais. Et
en avant.
Au risque de proposer une transition pour la prochaine séquence, je voulais juste revenir vite fait sur le côté aussi un peu ce monde féerique, justement. Et j'ai peur, enfin, justement, c'est parce que la bande-annonce n'en montre pas beaucoup. J'espère qu'ils vont exploiter en fait ce monde, qu'ils vont exploiter les différentes créatures, qu'ils vont réussir à faire des liens avec notre société moderne, parce que c'est quand même un thème, donc on en parlera très vite.
On peut en parler tout de suite.
Mais c'est donc en fait, il y a quand même pas mal de films qui ont joué sur cette corde et qui. Certains qui l'ont très bien fait, d'autres, on verra les exemples, mais justement, il y en a un en particulier qui l'a très très bien fait, et donc j'ai peur d'avoir ce sentiment de plouf.
C'est vrai qu'on a souvent eu tendance à faire cette recette, de mélanger notre côté urbain à nous et de le mêler à un autre univers. Je vous ai demandé du coup, pour cette thématique, d'essayer de nous faire une petite liste non exhaustive de des films ou des œuvres qui utilisent un peu ce procédé-là. Par exemple, juste pour dans le domaine de Pixar, il y a un film qui utilise ça très très bien et vraiment trop trop cool, qui s'appelle Monstres et Compagnie, que oui. Tout le monde connaît,
ouais.
Où l'univers des monstres est totalement calqué sur le nôtre, donc avec Monstropolis qui résonne avec notre côté urbain à nous, mais adapté aux monstres, et c'est super cool à voir dans En Avant, c'est le cas. Est-ce que vous avez, vous, trouvé d'autres exemples?
Oui.
À travers l'art, oui. En général.
Il y en a un, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est Osmosis Jones.
Oh,
c'est quoi ça?
Mais oui.
C'est le film avec les globules blancs flics.
Oui,
qui se battent contre les virus.
Non, ça c'est Il était une fois la vie.
Non, ça c'est.
Ça me fait penser.
Ouais, non, mais là c'est pareil, mais en plus plus fun, quoi. Et ouais.
Mais c'était un dessin animé.
C'est un dessin animé.
C'est un dessin,
ouais.
Animé. Alors c'est un long métrage qui a été aussi une série.
Début des années 2000, je crois.
Il est cool. C'est un film qui est pas trop connu, mais qui est vraiment cool. Donc animation traditionnelle, ça mélange un peu de CGI, ouais. Mais c'est de l'animation traditionnelle sinon. Et en fait, en gros, l'histoire, ça se passe dans le corps de quelqu'un de malade, je crois, ou je sais pas. Et un peu une histoire à l'aventure intérieure, quoi. Mais du coup, avec Osmosis Jones, c'est vrai que oui, du coup, t'as toute une société qui est imaginée et construite dans le corps. Donc on voit des buildings, des villes, mais dans le corps humain. Donc voilà, quoi. Chaque
c'est
partie
flippant,
du
je connais pas du tout.
Non, c'est cool, franchement, c'est cool.
Ouais, c'est sympa comme film en plus.
C'est vraiment cool. Du coup, il est ami avec une espèce d'anticorps.
Ouais, non,
de globule blanc. Enfin, c'est
un délire. Lui, c'est un globule blanc et son pote, c'est un. Je sais plus quoi.
Bon, c'est un duo de flics, quoi. C'est un duo de. Par contre, le truc, c'est que là, on est dans un monde où les humains existent.
Oui, bah, dans Monstres et Compagnie aussi.
Ils ont leur
monde à part.
C'est ça. Ouais. En fait, Romain, je voulais rebondir sur Monstres et Compagnie. Pour moi, il y a une typologie de tous ces mondes qui sont proches du nôtre ou décalés par rapport au nôtre. Et Monstres et Compagnie, je le mettrais dans la catégorie monde fantastique caché. Qui est à côté du nôtre. Oui. En fait, qui n'empêche pas que notre monde existe à côté, mais c'est un monde caché qu'on nous fait découvrir.
C'est pas comme Zootopie, par exemple.
Un très bon exemple, oui.
Où là, c'est clairement juste un monde fermé, seul, bah, où il y a juste, enfin, c'est juste des animaux qui sont à notre place.
Quoi. Oui. Bah, on pouvait faire cette distinction entre monde caché et monde. C'est vrai que par exemple, dans les mondes de Ralph, il y a tout le côté jeux vidéo. Ils ont leur ville à eux en mode jeux vidéo. Il y a même Internet dans le 2. Donc j'ai pensé sur ça, mais c'est vrai que bon, les humains existent. Donc Zootopie, non, pas du tout.
Si vous passez, si on part dans les mondes cachés, moi je suis désolé, Harry Potter.
Harry Potter, ça marche pas dans le sens où ils utilisent pas les codes urbains. Au contraire, c'est des teubés qui vont s'envoyer
des chouettes.
Ils ont un
ministère de la magie.
Et puis c'est des humains, quoi. Enfin, c'est deux classes d'humains.
C'est pas grave que ce soit des humains. Il y a quand même des gobelins banquiers. Je suis désolé.
Après, il y a une autre catégorie, moi, que je trouve qui est presque comme le monde caché, mais qui est un peu plus précise. C'est le monde de l'au-delà. Et typiquement dans Coco.
Oui.
Ou dans Les Noces Funèbres, ou dans presque, non pas L'Étrange Noël de Monsieur Jack,
dans Beetlejuice pour deux scènes.
Dans Beetlejuice, exactement. C'est le monde des morts qui utilise des trucs administratifs exactement comme nous et qui vivent comme nous en fait, comme si c'était une nouvelle vie, une seconde vie.
Et il y a un autre film aussi, moi, auquel j'ai pensé, que j'ai vu, il est sorti je sais plus il y a combien de temps, ça fait un moment déjà, qui s'appelle Planète 51. C'est un film d'animation, je ne sais pas si vous voyez.
Oui.
Alors là, c'est très intéressant, c'est le côté original dans ce film-là, c'est que c'est l'histoire d'un humain qui voyage dans l'espace, donc un astronaute, et qui va finir par s'échouer sur une planète extraterrestre, mais qui ressemble à la nôtre, sauf que c'est des aliens, quoi, des familles dans une banlieue américaine, typique américaine pour le coup, mais là c'est alien. Le chien, il ressemble à un alien, comment on appelle ça, un xénomorphe. La famille fait des barbecues. Enfin bref, on est vraiment dans la banlieue américaine. Et le gars débarque sur ce monde-là, et c'est lui qui est pris pour un alien. Et donc du coup, toute la ville panique. Et donc il va finir par être caché comme dans E.T. Dans une maison d'alien et tout. Et c'est super marrant. Et du coup, ben voilà, ils ont imaginé une société alien qui ressemblait à la nôtre, et ils ont inversé le rôle extraterrestre, quoi. Et c'est marrant, ce film-là qui du coup me faisait penser un peu à En Avant aussi.
Et j'ai un autre exemple super bon.
Allez,
qui m'est venu hier soir.
Super bon.
C'est Gang de requins. Gang de requins, le monde des poissons sous l'eau, c'est exactement la ville. Ils font des soirées, boîtes de nuit, il y a le carouache, il y a tout ça. C'est vraiment.
T'as
le parrain
Nemo,
requin.
Nemo presque. Enfin,
c'est pas poussé à ce point.
Nemo, ils utilisent quand même le côté naturel.
Ils vont à l'école.
Oui, mais ils vont à l'école, mais ils vont à l'école dans une anémone, tu vois, où ils habitent dans une anémone. Alors que dans Gang de requins, ils ont vraiment des maisons, des immeubles et tout.
Gang de requins, putain.
Je crois qu'il y a bienvenue chez les ch'tis.
C'est vrai.
Il nous ressemble, mais c'est
pas
non. J'avais pensé aussi à Idiocratie dans le thème.
Après, il y a un autre film que quand j'ai vu la bande-annonce d'En Avant m'a tout de suite fait tilter. Alors là, on est sur du film live. C'est Bright. Vous vous souvenez de ce film tout pété là?
Ça c'est d'une nullité absolue, mais c'est... c'est exactement ça.
Bright,
mais
avec Will Smith et...
parce qu'il y a quand même des humains, donc enfin c'est un
mais c'est un monde fantaisiste.
Oui, mais c'est un monde,
c'est
fantaisiste où justement en plus les orques c'est des flics, les fées dans ce film là sont des espèces
de
cafards volants qui se font déglinguer la gueule. C'est assez horrible en plus à voir parce que c'est plutôt violent, et puis il y a une histoire de magie et d'élus autour. Bon, le film est claqué au sol, mais l'univers était intéressant à la base. C'est dommage qu'il soit foiré autant, quoi.
Moi dans le... Alors plus côté film d'animation, j'avais deux exemples. Alors il y en a un, je suis pas sûr, mais Hotel Transylvania. Parce qu'il y a tout un monde. En fait, on se rend compte qu'il y a un monde parallèle à côté où il y a des monstres qui vivent. Mais il y a aussi cette interaction avec des humains. Mais en fait, ça m'a surtout fait ça pour le côté smartphone, quoi. Enfin, le côté.
Oui, mais parce que ce sont des monstres, un peu comme la famille Adams qui évolue dans un monde qui est le nôtre, mais ils sont juste à part. C'est juste des recalés de la société, quoi.
Ouais, mais après, sinon... avec des humains, t'as des pierres à feu aussi, quoi.
Ah bah les pierres à feu, c'est un très bon exemple.
La famille pierre à feu.
C'est un très bon exemple, les pierres à feu.
C'est encore autre chose.
C'est des hommes historiques, mais qui vivent dans une société pseudo-moderne.
Qui regardent la télé, qui ont des voitures, ouais. Robot.
Ah putain, bien vu. Mais oui, ça c'est très bien comme exemple. Robot, qui est un monde totalement dénué d'humains, où c'est juste des robots.
La version film de Rolly Olly Polly.
C'est vrai. D'ailleurs, Rolly Polly Olly est aussi un
exemple.
Ah là là, tu m'as ramené en enfance.
Et bah du coup, si tu viens en enfance, il y avait la série Dinosaure qui nous a traumatisés, que peut-être tout le monde connaît pas aujourd'hui, mais c'était une production Disney, et c'était fait avec des grandes marionnettes, des gens déguisés dans du latex, qui étaient une famille de dinosaures. Et en gros, le père était, il travaillait sur des chantiers, il va au travail et tout. Il rentre le soir.
Ah,
c'est
ça me traumatise, moi. C'est le
avec
gamin,
la
surtout
voix de
le
Richard Darbois.
Le bébé tout rose avec son t-shirt jaune et sa couche.
Il a mis
oh non, arrête. Je veux pas.
C'est
non,
vrai que c'était un peu traumatique.
Ah, je me souviens, c'était.
Et il y avait un épisode des dinosaures où Baby, le bébé, voulait pas aller sur le pot. Et c'est un peu comme dans Allô, maman, ici bébé. Du coup, il a peur des toilettes, il a peur du pot. Et ça devient cauchemardesque et tout. Et ça m'avait traumatisé. Voilà.
Traumatisant tout ça. Vous allez faire un tour si vous connaissez pas, mais quand t'es gosse et que tu vois ça, oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu.
Ça te change le caractère.
Autant que Dark Crystal, quoi. Ça va. Ah non.
Bah, Dark Crystal. Non,
non, ça marche pas. Dark Crystal. Donc on a fait un peu le tour, mais Zootopie, oui, c'est un très bon exemple. Robo, c'est un très bon exemple. Pierre à feu, c'est un très bon exemple, vraiment à fond dans l'ensemble.
Bon, après, il y a l'exemple pété de Cars, parce que j'aime pas Cars.
Mais Cars,
mais
ça marche,
oui.
Cars, ça marche, c'est une société pensée sans humain, mais qui.
Société de voiture, c'est très bizarre comme concept.
Tu la connais, la connaissais d'ailleurs, cette théorie? Qui réunit les films Pixar, et que comme quoi tous les films Pixar seraient réunis, et que Cars serait simplement le monde post-apocalyptique sans humain. Parce que je vous invite à regarder cette théorie sur tous les films Pixar. En gros, il pourrait y avoir une chronologie dans tous les films Pixar qui commencerait par Rebelle, je crois, ou même Arlo. Et en gros, la magie n'existerait plus, et du coup, machin, nanana.
Il y avait plus d'eau, donc les hommes sont tous morts, même Mad Max, et du coup, les
Wally,
voitures sont restées toutes
seules. Les hommes
se sont enfuis
avec Wally, et du coup, la Terre est repeuplée par des voitures, et enfin, bref, il y a tout un truc
comme
ça.
Il y en a qui ont vraiment que ça à foutre, quand même.
Mais c'est intéressant, bah oui, mais c'est ça, c'est bien, c'est ça qui est drôle dans le cinéma.
Qu'est-ce que j'ai fait de mon dimanche? Tiens,
bah, tiens, je vais faire une théorie sur ça. Au début, il y avait des dinosaures verts, puis il y a une rousse, et puis après.
Mais pas passé, il y a une théorie super fun, mais oui, bien sûr, sur Pixar.
Mais du coup, ça veut dire que les voitures, c'est contemporain de Wally ou pas?
Oui, par rapport à Wally.
Mais Wally, ils sont dans l'espace à ce moment-là, les humains ils sont plus là.
Non, mais Wally il est sur Terre à ce moment-là, ils sont les voitures.
Non, mais c'est vrai que non, il va pas sur Terre. Il va pas sur Terre, il va sur une décharge sur Terre, tu vois.
Et là, justement, c'est là où il met les voitures en cube.
Bah ouais.
Ah bah tout est lié.
Voilà.
Tout
est lié.
Allez lire la théorie, oh là là. Et puis nous, pendant ce temps, bah, on va passer au fait ton titre parce que en avant.
C'est nul comme titre. Hein. Je vais te faire une confidence, le film, la bande-annonce, j'ai envie de le voir, tu vois, mais le titre, franchement, il est pété quoi. Ouais,
alors
j'aurais pas vu la BH, j'aurais juste vu le titre, je serais pas allé.
Ça aurait fait un super documentaire sur le stade toulousain, mais
en anglais, ça s'appelle comment? Forward.
Onward.
Onward.
C'est traduit.
C'est
en
onward.
Fait, c'est simplement
onward.
Traduit.
Non, c'est
onward. Onward.
Ouais, c'est ça, onward. Onward. Ouais. Donc, je savais même pas que c'était un mot.
Bah, moi, je connaissais forward pour en avant, mais ok.
Bah voilà. Bah, on en apprend tous les jours avec Fetabia. Allez, on passe au fait ton titre, les amis.
Fait ton titre.
Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre.
Moi j'en ai un.
Moi j'en ai un.
Mais moi il est pas
riche.
Il
est en un et celui qui va gagner.
Et il est fort. Non parce que Erwan il en a. Erwan il a un bon aussi.
En fait j'en ai un qui est bon mais pas marrant.
Bon, on va savoir ça tout de suite.
Bon
dans la rubrique Fais ton titre qui nous permet du coup de renommer le film de la semaine ici à Fetabea. Car en avant ça nous plaît pas. On mettra ça sur notre belle affiche.
Faite par Bruno.
Qui a donc un titre.
Tout le monde sauf Clémence.
Clémence n'a pas de titre. Clémence, l'inspiration ne t'est pas venue.
J'aurais bien aimé trouver un titre en rapport avec les pâtes, vu qu'on l'a appelé Linguini, mais
Farfalle.
Ça ne m'est pas venu.
Oh, Farfalet, c'est
Farfalet, ouais.
Farfalet.
C'est
très bien.
C'est un peu.
Mais faut vraiment écouter l'épisode
cheveux.
Pour comprendre, du coup.
Mm. Oui. Bon, tu sais, Tartempoire.
Pour les personnes qui nous rejoignent que maintenant, qui disent tiens, je vais commencer à la moitié.
Tu vois, je vais commencer pile poil là. Ce podcast n'a aucun sens, on arrête.
Eh, ça se trouve, il y a des gens qui écoutent que cette rubrique.
Ouais, j'avoue.
C'est leur rubrique préférée, ils écoutent que ça.
C'est une rubrique en tout cas sur laquelle on a de très bons retours, effectivement.
Allez, balancez vos titres, les gars.
Erwan, un titre peut-être.
Ouais, parce que après Kevin va me voler la vedette.
Mais non,
je garde Kevin pour la fin.
Alors, moi, mon titre c'est Magic the Gathering.
Ah, référence des.
Attention, au fameux parce que la magie. Référence au jeu de cartes qui se passe dans un monde fantasy et The Gathering parce qu'ils vont essayer de retrouver leur père, réunir la famille together. Gather.
Oui, t'as juste repris le nom du jeu, quoi.
Verbe transitif. Ouais, mais voilà,
c'est exactement le nom du jeu.
Non, mais oui,
moi j'ai
c'est...
un titre Seigneur des Anneaux. Parce que voilà, il y a des magiciens et tout.
Ouais, bah c'est un jeu de mots déjà trouvé. Enfin, c'est...
Ça s'appelle du plagiat.
Ouais, c'est ça.
Bah bravo.
Non, je m'inspire, je rends hommage.
Bah moi j'avais un titre, du coup, qui a été un peu contesté maintenant par rapport à ce qu'on a dit, mais bon, je vais le dire quand même. Avec les fées et les bagarres, du coup, j'aurais appelé ça Féerix.
Ah, parce qu'une Rix.
Ah, Féerix.
Ouais, mais okay. Ça fait un peu partout Tatis, quoi.
Mais ou bien Féerix, quand ils prennent des risques.
Non, pas mal.
Bon, ça ne marche pas, apparemment.
Et après, sinon, ça pourrait s'appeler Magic Everywhere, comme la fameuse chanson de Disney.
La chanson, ouais. Bah oui, la belle chanson.
Alors, dans ce cas, je suis désolé, mais c'est un deuxième plagiat. Parce que pourquoi moi je plagie et Clément,
c'est
plagie pas.
Bah, justement, c'est ça qui m'a donné
c'est
l'idée.
C'est plagier. Ah, on peut plagier. Ah, bah, c'est de plagier. Bon.
Moi, j'ai un titre, c'est plagiat.
C'est le nouveau Antoniente.
Bon allez, je le vois, il se la pète là déjà parce qu'il pense avoir trouvé le titre. Mais si, je reconnais ta petite tête.
Et alors on va faire un jeu, essayer de deviner le titre de Kevin.
On l'aurait dit si on
l'avait. Déjà c'est forcément un jeu de mots avec le Seigneur des Anneaux. Un truc avec le Seigneur des Anneaux.
Alors,
non, je veux juste le dire
moi. Moi je le connais.
Gandalf.
Laissez-moi faire mon titre.
Glandalf.
Non, pas du tout.
Glandalf.
Nous sommes devant un film de magie.
Oui.
Avec des elfes.
Oui.
Adolescents.
Oui.
Donc c'est le Seigneur des Ados.
Oui.
Ah,
je m'attendais à mieux. Je suis déçu.
Non, c'est bien. Ça va
mais
être
si,
bien.
C'est super bien.
Ah, mais en fait, vous avez fait trop de teasing, donc forcément,
avec la déception. Les seigneurs des ados.
Moi, je l'aime bien.
Les seigneurs des
mignon.
Ados.
Bah ouais, c'est clairement c'est des bien. Ados.
C'est beau.
Oui, mais ah, mais ah non, c'est.
Mais si tu veux, on peut mettre The Gathering en là-haut.
Non, là-haut. Là-haut, c'est aussi un plagiat.
Sur la fiche.
Le seigneur des ados, c'est bon, t'as gagné. Allez, vas-y. C'est bon, souffle un peu.
Enfin, ça va devenir bon, un défi
un
là,
jour,
de battre Kevin.
Le Seigneur des Ados, donc notre nouveau titre pour En Avant, la dernière production de Pixar et de Dan Scanlon. Dan Scanlon, d'ailleurs, qu'on ne l'a pas dit, qui avait déjà travaillé avec un univers correspondant à peu près à celui-là, parce qu'il a fait Monstre Academy. Voilà.
Il n'y
avait pas une série Monstre Academy?
Non, c'est Star Academy, ça. C'est...
Ah oui, c'est ça. C'est... Voilà, avec Noël Leroy, je me suis...
Le Seigneur des Ados, En Avant, et on se fera un match retour de ce film la semaine prochaine.
Oui.
En parlant de match retour, qu'est-ce qu'on fait du coup?
Ben on fait le match retour du film qu'on a vu cette semaine.
Restons chez Disney. Allez, l'appel de la forêt.
En avant.
DJ,
ça te fait mal quand on te tire dessus?
Je ressens les blessures. La douleur est une simple information.
Votre discours était très éclairant.
Très éclairant? C'est du blabla, oui.
T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération?
Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de techniques. T'es nul!
Hey!
Moche!
En avant pour la peine de la forêt.
François!
Ouais, Perrault
Buc. L'appel de la forêt, ce film de Chris Sanders, hein, le papa de Dragon et compagnie, qui nous a fait un film live, mi-live, mi-CGI, mi-Omar Sy, avec l'appel de la forêt, donc le premier film 20th Century Studios, feu 20th Century Fox, car Disney a racheté pour la coquette somme de 7 milliards et des poussières de milliers de millions de dollars, Fox, l'entièreté de Fox, et donc 20th Century Fox devient 20th Century Studios. On va en parler de ce film, on va revenir sur nos avis, sur la BA, mais je vais d'abord vous rappeler l'histoire que nous nous étions imaginée dans notre épisode précédent. Alors, est-ce que vous êtes prêts?
Oui.
Oui.
Dans le Yukon, une zone de guerre très connue, pour sa ruée vers l'or, sa poutine et son pain d'épices, Harrison Ford s'est exilé pour fuir Star Wars 9. Il y rencontrera un fond vert qui ressemble étrangement à un chien, nommé Buck, un ancien animal domestique de type CGI pourrigaté qui s'est fait dognapper et qui a vécu des sales choses. Mais Buck ne pouvait pas être brisé. Il s'était enfui pour devenir chien de traîneau pour un homard si plus vrai que nature. D'autant plus que Buck a un don. Il est cartographe, ce qui est très utile en milieu inexploré et surtout pour aller au bout du monde. Un lieu peuplé de loups sauvages, d'anacondas, de lions et de jaguars et d'avalanches et d'autres plein de choses dangereuses. Mais ce sera sans compter sur les talents en physique de Buck, car oui, il est aussi physicien. Ça vole trop haut à chaque fois. Serez-vous prêt à trouver le courage pour suivre votre instinct ?
Eh ben.
Quelle belle histoire.
Quelle belle histoire, n'est-ce pas ?
Oui.
Mais était-ce proche ? Était-ce éloigné de la vraie histoire de ce film, L'Appel de la Forêt ? Kevin, car c'est à toi que je demande aujourd'hui de résumer.
Alors,
ce beau film 20th Century Studios.
L'Appel de la Forêt est donc l'histoire de Buck. Buck est un chien bourgeois, mais un peu turbulent, qui fait plein de bêtises et qui se fait kidnapper par des gens qui veulent le vendre à des facteurs.
Salon
dans le Canada.
Parce que en fait, il y a un gros deal de chiens pour tirer les traîneaux, tu vois. Genre, et donc, il atterrit chez Omar Sy, il devient donc chien de traîneau facteur pendant un tiers du film. Donc il livre des lettres et puis il apprend à voilà il apprend à renouer avec son côté sauvage qui est matérialisé par un loup noir géant avec des yeux dorés.
Oui, voilà son instinct en
voilà
fait,
avec
ça.
Son instinct, parce que l'instinct c'est important. Et puis après bon, Omar Sy il peut plus être facteur parce que c'est voilà, il est français donc forcément voilà,
licenciement
peu
économique.
Emploi, hein, licenciement économique. Donc Buck rencontre Harrison Ford. Harrison Ford, c'est un mec qui en fait, il s'est un peu exilé parce que son fils est mort malheureusement et puis du coup il est devenu alcoolique voilà histoire classique des gens qui perdent leurs enfants dans les films et du coup il devient pote avec Harrison Ford et puis il décide d'aller le plus loin possible au-delà des cartes connues pour une belle aventure au cours de laquelle Buck va devenir un loup.
Waouh, c'est
tout
beau.
Simplement.
Donc oui, l'appel voilà. Et succomber à l'appel de la forêt.
Et voilà.
Un film qui du coup porte très bien son nom.
Ouais, parce que c'est exactement ça.
Et ben merci pour ce beau résumé dans le Grand Nord, Kevin. Voilà. On va du coup ouvrir maintenant la page Douille ou pas douille.
Douille, 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 pas douille.
C'était une douille.
Douille, 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 pas douille.
C'était pas une douille.
Le douille ou pas douille, évidemment, qui nous permet de relier la BA que nous avions analysée dans notre épisode précédent au film que nous avons vu cette semaine et dont on va vous parler tout de suite. Est-ce que cette BA, du coup, était fidèle à ce film ? Je rappelle quand même, juste pour dire qu'on n'était pas, nous, du tout emballés par cette BA et qu'on n'avait pas envie de voir le film. Clémence, douille ou pas douille ?
Pas douille, lassie chien fidèle, effectivement.
Comment ça, pas douille ?
Non, pas douille, parce que en fait, c'est, le film correspond à ce que j'attendais en voyant la BA. Pour ça, en fait.
Mais t'étais pas.
Donc la BA. Oui, la BA, elle me laissait indulgente, mais pas enjaillée. Et le film me laisse indulgente, mais pas enjaillée, en fait.
Je crois qu'on peut
C'est-à-dire qu'il y a des, bons trucs sympatoches qu'on apprécie, mais après.
On va en parler.
Peut-être pas forcément la cible.
Erwan. Douille ou pas douille ?
Alors moi, douille, mais douille positive. Voilà. Parce que c'est vrai que j'étais pas avec vous, mais moi, donc c'est cette bande-annonce que j'ai vue 45 fois au cinéma, me laissait à chaque fois une impression de « Ok, ça va être Beethoven à la forêt ».
Beethoven.
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 Beethoven, donc le chien, hein, pas le sourd.
Il est
pas
sourd
le,
avant d'être compositeur.
Pas le fameux sourd.
Pas le célèbre sourd.
Donc ouais, non, je me suis dit ouais, ça va être Beethoven au Far West, et en fait non, c'était carrément Beethoven Origins. Et du coup j'ai été époustouflé. Je me suis dit waouh, mais j'ai appris en fait. Non, c'était j'étais
donc douille positive.
Douille positive.
Pour rappeler, douille positive.
C'était plutôt sympa. Enfin voilà, je.
Une douille positive, c'est le nom qu'on donne quand on n'apprécie pas la BA, mais qu'au final le film nous surprend.
Exactement.
Donc voilà, pas botté par la BA, mais film surprenant. Kevin, douille positive, douille mauvaise, merde.
Moi je dirais pas douille. Je m'attendais à un film un peu qui ne m'intéresserait pas plus que ça. C'est ce que j'ai eu. Je m'attendais pas à une merde, c'était pas une merde non plus. Disons que c'est un film un peu. Enfin, je l'ai oublié quoi. C'est quoi déjà ?
Tu veux faire le résumé.
Qui êtes-vous? Que faites-vous chez moi?
Faites-vous chez moi.
C'est pas chez toi, gars.
Est-ce que tu veux dire que c'était indulgent? Mais j'ai oublié.
Non, mais je veux dire, c'est je m'y attendais. C'est un film qui, pour moi, n'a pas vraiment de plus-value.
Oui, donc indulgent, mais pas enjaillé.
Voilà. Ouais, c'est ça.
Et toi, Romain?
Douille ou pas douille, moi? Non, je te rejoins, Erwan, sur le coup douille positive, parce que la BA ne me vendait pas plus de rêves que ça. J'étais un peu, surtout, réticent à l'idée de cette surutilisation des CGI. Et au final, en fait, le film m'a bien botté, m'a bien emballé, et j'ai fait un beau voyage. Attention, à toute proportion gardée, mais on va en parler tout de suite. Mais non, pas douille, enfin, douille positive, quoi. Si, une douille, mais une belle douille.
Ouais, parce que je suis contente que t'aies bien aimé, ça me confirme que tu as une âme d'enfant et j'aime beaucoup vraiment
quoi,
cette
t'en doutais jusqu'à présent.
Je pensais que tu l'avais oublié.
Non, mais ça me rassure, je pensais que t'étais un connard, mais t'es quand même une belle personne.
Non, mais parce que nous on t'imaginait au cinéma en train de gueuler, de lancer tes popcorn sur l'écran, tu vois. Comme tu veux faire avec tous les films, bah oui.
Comme tu fais d'habitude. Oui.
Disney, nique ta mère.
Mais c'est vrai que juste pour revenir sur la bande-annonce, du coup, la bande-annonce en fait laissait pas transparaître toute l'histoire qui allait y avoir, en fait, parce que comme on voyait beaucoup Harrison Ford alors qu'au final on le voit que la deuxième partie du film, finalement. C'est vrai que c'est là où je pense qu'on a tous été un peu surpris, même vous, la team indulgente, mais pas enjaillée.
Ouais, voilà.
Oui, la bande-annonce en plus donnait une espèce d'effet d'accumulation d'événements, avalanche, ours, etc. Et en fait, c'est vrai que le film est plus construit et que l'avalanche arrive à un certain moment, que l'ours, en fait, c'est pas vraiment ce qu'on imagine dans la BA. Enfin, voilà, il y a,
oui, plus, y a pas de fight,
y a plus d'histoire que ce qu'on pense.
Ouais, et puis plus naturaliste, quoi, parce que ça reste. Enfin, on va en parler tout de suite d'ailleurs en donnant nos avis sur le film.
Voilà.
Donc, oui, moi, j'ai mon âme d'enfant, non, je l'ai toujours, mais c'est vrai que les dernières productions Disney, parce que c'est un film Disney, hein, voilà, le premier 20th Century Studios, d'ailleurs, quand j'ai vu le logo s'afficher dans la salle de ciné, bam, BDR, hein, mon cœur a fait un petit saut, quoi, en me disant, ça y est, une époque est finie, une époque est terminée.
Commencer à lancer des pop-corns.
Des pop-corns, c'est trop cher, j'en achète pas, c'est fou, quoi. Ouais. Je prends ceux de mes voisins.
Il y a les points fidélité.
À chaque fois qu'on va au cinéma ensemble, t'achètes des pop-corns, fais pas le radin.
Chut. Et donc, du coup, voilà, un petit côté BDR, je me dis, dans quel film je me lance? Donc, je me lance dans une production Disney, Disney milliardaire, Disney empire, Disney empereur. Et j'avais un peu peur, et puis en fait... parce qu'on a vu le film en VF, hein, c'était un peu dur de le voir en VO parce qu'il n'y a que des séances la nuit, en fait, le soir. Mm. Donc c'est un peu compliqué avec le programme. Mais on l'a vu en VF et bon, en plus la VF, je l'ai trouvé très cool. Richard Darbois, hein, toujours avec Harrison Ford. Omar Sy qui se double lui-même. Puis on aime son rire, il est très communicatif. Et puis non, ça marchait très bien. Les chiens très bien doublés aussi. Mm. les aboiements français.
Bah, les chiens français ont réussi à aboyer en même temps que les chiens américains en CGI.
Oui, magnifique.
C'est magnifique.
Et non, bah, le film s'est ouvert. Et puis au premier rire d'enfant, en fait, tout simplement, bah, je me suis laissé emporter parce que ça fait toujours plaisir d'entendre des rires d'enfants. J'en entends pas souvent parce que je vais souvent voir les films en VO.
D'accord.
Donc il y a beaucoup moins d'enfants. Et là, pour le coup, il y en avait pas mal.
Bah, je comprends pourquoi t'as kiffé.
Non, et voilà. Et puis je me suis laissé porter par la magie que j'ai retrouvée parce que j'ai trouvé justement ce film renoué avec une époque qui me manque, qui sont les âges d'or de Disney. Hein. Donc les âges d'or de Disney, surtout le deuxième qu'on a vécu, nous, notre enfance. Hein, donc de La Petite Sirène jusqu'à peu près les derniers films d'animation traditionnels, jusqu'à Tarzan, quoi, on va dire. Et cet âge d'or là, je l'ai retrouvé en fait dans l'ambiance du film parce que c'est une belle aventure. Il y a beaucoup de valeurs à la Disney qu'on aime beaucoup et qui sont très humaines. Évidemment, hein, c'est pas non plus une nouveauté, il n'y a rien de nouveau dans ce film là, mais c'est un beau voyage. Et je me suis réconcilié avec le côté CGI parce que je comprends mieux l'utilisation de cette pratique CGI pour les chiens parce que c'est vu par les chiens en fait. C'est l'histoire de Jack London vue par Buck. Et donc impossible, j'ai tout retourné, c'est impossible de faire un vrai chien, on peut pas faire ça, il y a aussi d'autres animaux, donc c'est une belle ode à la nature, mais bon, mine de rien, petit bémol quand même sur l'utilisation des CGI, peut-être pour les décors, parce que ça pue le fond vert quand même, et peut-être que les CGI pour les chiens, il n'y a pas de problème, mais d'en faire pour les décors, c'est un peu dommage.
Il y a quand même une scène qui est dégueulasse en effets spéciaux, c'est l'incendie de la cabane à la fin. Ou l'incrustation de bug sur le feu, là, ça marche pas du tout, ça saute en plus.
Bah, y a beaucoup de problèmes d'incrustation, mais bon, après, voilà, c'est un peu pardonné par la magie que j'ai retrouvée. Et franchement, non, j'en suis ressorti plutôt serein. Je me dis que si 20th Century Fox Studios nous permet d'avoir des films Disney à l'ancienne comme ça, des films live avec des grandes aventures, parce que Cro-Blanc aussi avait été adapté par Disney, hein, souvenez-vous, c'était un très bon film. Et donc, ça m'a fait plaisir. Voilà, juste le problème CGI que j'ai un peu digéré moyen. Et vous ?
Je comprends.
Clémence ?
Mais en fait, c'est marrant que tu parles des enfants dans ta salle, parce que de l'influence des rires d'enfants, parce que en fait, tu as sûrement eu beaucoup de chance d'avoir une bonne salle de bons spectateurs enfants. Et Kevin... J'étais avec Kevin au cinéma pour aller voir L'Appel de la forêt.
Ah bon ?
Et il développera plus, parce qu'il a été plus victime que moi, mais clairement, nous, dans notre salle...
On lance un hashtag.
Non, dis plutôt que j'ai failli faire une victime.
Nous, on était aussi dans une salle d'enfants.
Il y a une pétition qui tourne sur les internets en ce moment.
Et il se trouve que nous, notre salle d'enfants n'était pas trop rigolarde, et particulièrement il y avait des enfants chiants. Donc ça nous a un peu influencé peut-être en négatif dans notre visionnage du film, parce que c'est devenu un peu relou.
On a décidé de pas avoir d'enfants, hein, du coup. En tant que
sorti, on a fait OK, c'est
ça
bon,
nous a dégoûté.
Mais du coup ils étaient chiants, genre indulgents et enjaillés.
Bah, Kevin, vas-y, raconte que t'as.
Alors, ils étaient chiants. Non, ils étaient cons, en fait. C'est que.
Un seul. Hein. C'est le petit Jonathan, là.
Le petit Jonathan qui était à côté de moi, vraiment à côté de moi. C'est-à-dire que le film, il a commencé depuis 5 minutes. Tu as Buck qui mange la viande, enfin, tout le truc que le juge avait étalé dans son jardin pour ses invités, là. Oui. Et donc, Buck, c'est un chien, donc il mange tout. Et première question, et là, je me suis dit, la séance va être très longue. Maman! Pourquoi le chien a mangé la viande ?
Ah, youpi, je
vois. Et elle lui dit... Et puis tout le film. Ouais. Maman,
toutes les
pourquoi le méchant, il a un fusil ? Hey, mais pourquoi elle est triste ? Mais pourquoi elle a fait ça ? Mais pourquoi, ouais. Nana ? Ouais. Mais pourquoi Omar Sy ? Mais
et en fait, c'est vrai que c'était fatigant, parce qu'il parlait fort quand il posait ses questions. Et surtout, il posait des questions où en fait, le film donnait la réponse 2 secondes après. Donc c'était vraiment l'enfant typique qui n'a aucune patience, ouais. Et qui ne réfléchit pas par lui-même. Non,
et puis en plus, il est totalement teubé. Je veux dire, c'est pas Inception le film, c'est l'histoire d'un chien qui va dans la forêt. Putain, merde.
Oui, mais en fait, si tu côtoyais plus d'enfants dans ta vie, Kevin, tu le saurais les enfants, quoi qu'il arrive, posent des questions pour tout et n'importe quoi.
Bah
aussi
oui, bien
dans le rayon fromage.
Et leur apprendre à réfléchir par eux-mêmes. Ça
peut être bien que vous fassiez pas d'enfants. Vu comment ça part.
Papa, pourquoi ?
Maman, pourquoi le ciel est bleu ? Parce qu'il est bleu, ferme ta gueule, allez hop.
On voulait passer le message. Voilà. Si Jonathan, petit garçon de 11 ans, tu nous écoutes, ou si les parents de Jonathan nous écoutent, il ne faut pas faire ça.
Mais donnez-le à une institution spécialisée. Putain, vous n'êtes pas fait pour être parent. Mais voilà.
Non, maman, est-ce que la toupie, elle s'arrête ? Allez, stop. Bon, ok, ça c'était le contexte, bref. Mais le film sinon.
Mais du coup, non, franchement, j'ai quand même passé un bon moment, mais c'est juste que clairement, je me suis pas sentie la cible, et j'ai trouvé quand même qu'il y avait des longueurs dans ce film. En fait, il y a un truc qui m'a le plus plu, contre toute attente, c'est quand même le chien, et comme tu disais, le fait qu'on adopte vraiment le point de vue du chien, et son côté très expressif fait par les CGI, et ben je trouvais très attachant. Il y a plein de scènes où j'étais complètement en empathie avec lui et ça pouvait vraiment me toucher. Après, ce qui m'a embêtée du coup, c'est les humains autour, plutôt. Bon, quand c'est Omar Sy et Françoise, le personnage de Perrault qui font la tournée de facteurs avec leur chien, ça va encore parce qu'il y a beaucoup d'action et qu'ils ne sont pas au centre du truc. L'enjeu d'Omar Sy, c'est d'arriver à temps pour livrer son courrier, voilà. Ouais. Et c'est drôle, quoi. Mais après, il y a des bonnes scènes d'action avec l'avalanche et tout. C'est assez épique, ça, j'ai bien aimé.
C'est bien rythmé, oui.
Mais par contre, il y a le truc, il y a une partie de l'intrigue qui m'a vraiment énervée. C'est le coup du méchant qui veut absolument avoir Buck pour lui, qui veut l'emmener avec le traîneau alors que c'est plus la saison, et qui après revient dans le bar pour casser la gueule à Harrison Ford et qui essaye d'être tout le temps le méchant qui arrive jusqu'au bout pour piquer l'or et tout. Franchement, celui-là, il est insupportable et ça mettait vraiment une longueur dans le film, quoi.
Une espèce de mélange entre Philippe Lachaud et Bradley Cooper. ce méchant. Je voyais que Philippe Lachaud, quoi. J'étais en mode, mais c'est Philippe Lachaud.
Ouais, tu faisais penser au roux qui sert à rien dans Star Wars, là.
Non, mais du coup, j'ai beaucoup plus apprécié les moments où c'est vraiment que les animaux. Par exemple, mes scènes préférées dans le film, c'est quand Buck prend la tête de la meute de ceux qui tirent le traîneau face à l'autre chien, le chien de traîneau, le husky, qui est le chef.
Magnifique.
Et ça donne lieu à une scène de combat entre les chiens en pleine nuit, et j'ai trouvé ça assez ouf. Cette scène, elle m'a un peu emportée. Et aussi à la fin, quand Buck renoue complètement avec la nature, avec son instinct, quand il rencontre les loups et qu'il va passer du temps avec eux, quelque part, ça m'a touchée, ça m'a fait un peu penser aux enfants loups.
Ameyuki,
parce que c'est comme dans Les Enfants Loups, celui des deux enfants qui devient vraiment un loup et qui va dans la forêt de plus en plus et qui ne revient plus chez lui. Et il y a vraiment ce truc là parce que t'as l'amitié entre Harrison Ford et Buck, et petit à petit Harrison Ford le laisse partir de plus en plus longtemps.
Ouais, c'est touchant.
Et c'est assez touchant, ouais, qu'il fasse sa vie tout seul de son côté, qu'il ait trouvé sa place, quoi. Donc voilà, mais après, il y a des longueurs, c'était quand même un peu gnangnan par moment, un peu trop explicatif surtout.
Alors il me semble que ils ont bien lissé le livre. Le livre est plus violent, il me semble.
Ouais.
Oui, il y a une histoire de vengeance.
Le mec meurt et Buck va se venger et aller tuer les gens.
Tout ça c'est oublié, mais ça n'empêche pas que ça fait un bon film d'aventure.
J'aurais préféré voir ce film où il bute des gens.
Ouais. De toute façon, tu le sais que c'est adapté pour un public familial. C'est à partir du moment où il y a Omar Sy, c'est que ça va être bon enfant et sympathique.
Et qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du coup, de ce film?
Alors, moi, je l'ai vécu. Moi, j'ai bien. De manière générale, je l'ai bien aimé. Je l'ai vécu en trois parties. Donc, ça a commencé. Je me suis dit, ok, ce chien va être insupportable. Le CGI, c'est chiant. Il a beaucoup trop de réactions humaines, en fait. Enfin, moi, j'ai eu un chien. Enfin, j'ai eu deux chiens, même. Ça réagit pas comme ça, un chien, en fait. Ça te fait pas des. Enfin, on a l'impression que c'était Mickey, quoi, le truc. Enfin, et je me suis dit, ok, ça va être très long. Finalement, je me suis laissé complètement embarquer à partir du moment où, en fait, bah, il quitte un peu la société pour aller un peu dans le Far West, enfin, le Far North. Tout le lancement avec Perrault et tout, là, ça commençait à devenir. Je me suis complètement laissé embarquer. J'ai été vachement ému. Au final, je m'attendais pas du tout à ça. Mais là, je pense que c'est encore une fois le côté quand on a eu un chien, on sait ce que c'est. Enfin, comment dire.
Je l'ai ressenti ça dans la salle. Moi, j'ai pas eu vraiment de chien, j'en ai eu un, mais il a pas vécu longtemps. Puis à son âme. Mais
c'est
triste. Oui, bon, c'est une histoire assez traumatisante, n'en parlons pas. Mais je sentais dans la salle qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient l'air d'avoir des chiens parce qu'ils avaient des réactions. Mais,
ouais,
vraiment,
je pense que c'est vraiment un film. À partir du moment où t'as eu un chien, tu étais forcément. Enfin, je trouve plus mon mot.
Tu
t'identifies.
T'identifies, exactement. Tu repenses à ton chien. En plus, moi, c'était un gros chien, un poilu comme lui. Espèce de voilà, et du coup ouais, non c'était j'étais ému parce qu'en plus le film est comme ça, hein, je veux dire il y a beaucoup de scènes à émotion
ouais mine de rien oui
donc c'était plutôt bien fait parce que si je me suis laissé embarquer c'est que voilà et puis non après juste la fin où je me suis rappelé CGI tout ça et
je me suis rappelé qu'il fallait nourrir le chien
non mais bébé trisomique là Michel Milou.
Ah, tu parles des chiots.
Alors,
ils sont dégueulasses.
Ah, mais c'est une horreur. Je me suis dit, c'est dommage parce que tu m'as embarqué. J'étais dedans et là, tu me dis, là, tu viens de me chier dessus. Tu viens de me dire, non, mais tiens, prends ces petits bébés. Milou.
C'est l'exemple même de parents beaux qui font des enfants moches parce que le loup est trop bien fait et Buck est trop bien fait.
Moi, je suis pour
le métissage,
mais il y a des limites. Mais
les bébés, c'est toujours dégueulasse.
Les Saint-Bernard et les loups, faut pas les accouper.
Ça devient mignon en grandissant.
Non, mais après, ils sont adultes. C'est bon, ils sont adultes qui sont moches.
Alors, parce que. Le film se termine sur une légende dirait que ces loups sont alors je me suis renseigné pas du tout hein, je veux dire il n'y a pas d'espèce de...
il est parti se renseigner. Moi je t'imagine dans les transports en mode je rentre à la maison, je vais mettre cette affaire au clair.
C'est quoi cette histoire de loup Saint-Bernard là?
Sur www.youconvoyage.fr.
Non, j'ai regardé tous les épisodes de 30 millions d'amis, on m'a jamais parlé de loup.
Non. Les loups Saint-Bernard n'existent pas.
Rendez-moi mon argent.
D'ailleurs Kevin avait une théorie là-dessus sur le fait que Buck va pour coucher avec une louve et...
Bah avec ses ancêtres quoi, c'est comme si nous on allait enculer un bonobo quoi.
C'est vrai.
Bah oui, il y en a qui le font hein. Bon et sinon Kevin, est-ce que toi quand t'as vu le film t'étais plutôt indulgent ou enjaillé? J'ai une image.
C'est pas drôle.
Indulgent, ça y est, douille ou pas douille, je sais plus.
Donc le bonobo,
Alors. moi je suis plutôt.
Pardon. Oui. Alors, douille
ou pas douille. Je suis plutôt indulgent.
Je me disais aussi.
Non mais voilà, enfin, j'ai bien aimé le film, il est chouette.
Mais... Merci Kevin. À la semaine prochaine.
Voilà, c'est tout pour moi. Non, bref, il est bien fait. Je trouve que visuellement ça marche bien. Et j'avais un peu peur que le chien me gêne, mais en fait, je trouve que il y a un côté un peu film d'animation et je trouve ça assez sympa finalement. Ça marche plutôt bien. Après, je trouve que c'est un peu long. Alors que le film fait qu'1h40, je trouve quand même qu'il y a des sacrées longueurs en ressenti. Je me suis dit, waouh, le film il dure 3h ou il dure 1h40? Mais non, il dure qu'1h40. Et c'est parce que je crois que aussi, dans la rythmique de la narration, c'est pas super maîtrisé. Parce qu'il y a des moments où je trouve qu'il rush beaucoup.
C'est assez cut à certains moments.
Beaucoup, pardon, j'arrive plus à parler.
Notamment le passage au Marcy au Harrison Ford est très.
Voilà, c'est très. Il y a des moments très cut et des moments qui, où il s'attarde un peu plus, mais justement l'écart de rythme est assez étrange. Et je trouve que la partition n'est pas forcément hyper maîtrisée. Mais bon, c'est néanmoins sympathique. Hein. Et voilà, ce qui fait que je ne rentre pas à fond dedans, c'est que ça reste très très classique, que j'ai déjà vu ça 15 000 fois et que j'ai déjà vu ça mieux fait en fait, donc c'est pas mal, mais j'irai pas jusqu'à dire que ça m'a fait retrouver mon âme d'enfant ou que vraiment je suis rentré réellement dedans quoi. J'ai toujours une espèce de distance en me disant vous auriez pu faire un peu plus d'efforts, mais bon voilà.
En tout cas ils ont la thune maintenant.
Tout cas, niveau animation, moi je trouve que ça marche beaucoup mieux que Le Roi Lion par exemple.
Ah bah oui.
Parce que ça se veut réaliste de la même manière que le dernier Roi Lion.
Mais il y en a beaucoup moins aussi.
Mais sauf que dans Le Roi Lion, ça marchait pas du tout l'expressivité des personnages. Non. Ils osaient pas en fait, ils voulaient être beaucoup plus naturalistes. Et là, pour le coup, ça marche mieux de voir les expressions.
C'est peut-être, du coup, je me dis, c'est vrai qu'on a parlé dans l'épisode du Roi Lion, qui est l'épisode numéro combien, Kevin ?
Numéro 12.
Putain, bien joué.
Bah, c'est moi qui l'ai mis sur le site.
Wow. Et donc, oui, on en parlait de ce côté ultra photoréaliste qu'ils avaient choisi pour Le Roi Lion. Alors que là, je trouve que oui, ils auraient pu faire ça pour Le Roi Lion. Ça aurait peut-être mieux marché sur nous.
Bah, ça aurait marché beaucoup mieux. Parce que le problème du Roi Lion, c'est quand même qu'ils n'ont pas d'émotion sur la tête.
Et puis les interactions entre chiens, sans même qu'il y ait d'humains qui leur parlent, elles marchent très bien.
Genre vraiment, Pete, le méchant chien, il fait des petits sourires machiavéliques et tout.
Et qu'est-ce que vous avez pensé du coup de la performance de Monsieur Notary? Terry Notary, je crois, je sais plus son prénom. Si, c'est le gars qui fait le chien en fait.
Ah, il joue bien.
Vous avez fait l'épisode d'avant ou
oui. Mais pardon, non, j'ai dit, c'est le temps que ça remonte. Bah, il est pas mal, hein. Je trouve qu'il remue bien la queue, c'est assez réaliste.
Bon, on va s'arrêter sur cette belle
parole. Aussi. Pas aussi bien qu'Andy Serkis en.
Ouais, Andy Serkis aurait été meilleur, je pense.
Ah, Andy Serkis, c'est le maître.
Mais il fait peut-être l'ours, c'est peut-être le caméo.
Ah, c'est peut-être ça.
Je sais pas.
Je me disais que l'ours, il avait des
façons
de marcher.
Il était pensé un peu à Gollum, fois. Ouais. Il est toujours dans l'eau en train de chercher la
main. Andy Serkis, ce sera peut-être une recommandation à Andy Serkis, en tout cas, parce qu'on va ouvrir la page des recocos.
Attends, c'était une blague ou pas? Il y avait vraiment un mec derrière le chien?
Oui.
Ah putain, vraiment.
Derrière tous les chiens?
Tous.
Comment tu fais un chien, quoi? Comment le mec...
Regarde le faire cette scène dans The Square où il imite un gorille. Putain, frère, pourtant il est pas en CGI ou quoi, c'est un film assez space qui s'appelle The Square où on voit ce gars-là, Terry Notary, qui imite un gorille. Mais frère, t'as l'impression que c'est un gorille en face de toi. Okay. C'est dingue, c'est assez dingue.
C'est ouf.
Il est très fort.
Donc faire un chien, à mon avis, pour lui, c'est le béaba.
Ouais, non, c'est plus facile de faire un gorille qu'un chien.
Bah parce oui, que... parce qu'un gorille ça va plus sur les pattes arrière. Voilà.
Ouais, alors que le gorille au final c'est.
Bah, c'est comme nous en plus gros.
Ouais.
Ça doit pas être facile d'être sa femme, à mon avis, à cet homme.
Oui, non. Oh, ça se trouve, elle est zoophile et
elle a trouvé son truc. Allez, on passe au rococo.
À qui le rococo ?
À qui le recommandez-vous ?
À qui le rococo ?
À qui le recommandez-vous ?
À qui ?
À qui le rococo, qui nous permet de faire nos recommandations aux gens qu'on veut, aux gens qu'on aime ou qu'on n'aime pas, justement. C'est le principe de cette rubrique. À qui le rococo tue ? Donc, du coup, Kevin, ce film.
Moi, je le recommande à Fred Testo.
Ah.
Ouais.
Pourquoi donc ?
Pas pour qu'il se rende compte que vraiment, il a raté sa carrière.
Ah putain, oui, par rapport à Omar. Après Omar et Fred, Omar et Ford.
Mais je rigole, Fred, je t'aime bien.
Oui.
Putain, la vache. Non mais réagissez. Le blanc, il est horrible.
qui ça, Fred ?
Non mais Omar et Ford, j'ai bien aimé. C'était une bonne vanne.
Merci. Clémence, des rococos.
Oui, c'est pas très drôle, mais en même temps ça m'a parlé. C'est que je recommande au service de la poste et à tous les livreurs, parce que prenez-en un peu de la graine, les gars. Voilà. Bougez-vous un peu le cul, quoi. J'ai pas embauché des chiens ou quoi, mais vous êtes tellement galère. Eux, ils sont sous la neige et tout, ils travaillent sur une avalanche et ils livrent à temps.
Imagine les facteurs dans les rues de Paris. Moche.
Mais pas un vieux recommandé. Tu sais, tu sonnes une fois, t'attends deux secondes. Ah, y a personne. Allez hop, je suis passé, mais il n'y avait personne.
Ouais.
Menteur, t'as même pas sonné, enfoiré. Très bien, merci pour cette rococo indulgente et enjaillée. Ce sera le mot du podcast, je crois. Erwan, tes rococo.
Moi, je le recommande à tous les punk à chiens de France. Vous avez un chien, vous pouvez peut-être faire des grandes choses avec.
Mettez-le sur un traîneau.
Voilà, allez chercher de l'or, quoi. Voilà,
ou alors, il fera des grandes choses, il vous abandonnera.
Que... voilà, non, mais je sais pas, mais essayez. Plutôt que de vendre des cendriers faits en canettes de coca.
Voilà.
Faire des bolasses. Les gars, prenez-vous en main.
Et toi, Romain, à qui tu le rococo?
Alors, moi, oui, bon, je le rococo à tous les amis de tous les 30 millions d'amis, parce que je trouve que ce film est une belle ode à la nature, malgré le fait qu'elle soit représentée par du CGI. On comprend l'intention et un très, très beau moment naturaliste que j'ai beaucoup apprécié et qui m'a fait respirer. Donc, vraiment, il y en a pour tous les animaux et c'est très, très, très joli à voir et ça donne presque envie d'avoir un chien, pour vous dire. Donc, voilà. Mmh. Ou un homard, si j'aimerais bien.
C'est vrai que juste pour revenir sur le CGI, en fait, finalement, heureusement qu'ils ont utilisé le CGI, parce que quand tu penses à tous les films où il y a des vrais chiens, genre Beethoven, Air Bud, Eddie McDowd, la série Disney Channel, enfin, à chaque fois, tu te dis, ok, bon, c'est un chien, quoi.
Vive les ordinateurs.
Mais non, ça marche bien.
Non, Eddie McDowd, ouais, bon.
Mais ils auraient pas. Heureusement qu'ils parlent, parce que sinon.
Ah, bon, sur ces bonnes paroles, je crois, les amis, qu'il est temps pour nous de se dire au revoir.
Au revoir. Au revoir.
On n'est pas bien?
Si.
Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander.
Voilà, voilà. Ce petit épisode aux couleurs de l'Empire. Aux couleurs de Disney, d'un côté Pixar, hein, de l'autre Fox, Feu Fox, maintenant 20th Century Studios, c'est comme ça qu'il faudra l'appeler désormais. Donc en avant que nous on va se précipiter, ça veut rien dire ça,
qu'on va se précipiter,
aller voir en avant, hein. Et qu'on vous fera un match retour, allez, on s'en fout, il n'y a plus de verbe,
il n'y a plus de grammaire,
enfin, l'émission, plus de grammaire, plus rien, match retour la semaine prochaine de ce dernier Pixar, et puis ben, beau voyage dans le nord avec Omar et Ford, c'était cool. La semaine prochaine, comment vous teasez ce qu'on fera ? Peut-être que cet extrait de musique vous en dira peut-être plus. Une idée peut-être ?
Dragon 4 ?
Non, allez, c'est fini l'animation, on oublie.
Ok.
On recolle avec du ciné live et du cinéma avec un grand C, si, peut-être si on peut dire ça comme ça. Son nom de famille à cette réalisatrice, parce que oui, nous revenons à une réalisatrice, peut-être pour un numéro spécial femme, je pense, hein, parce qu'il y aura beaucoup de femmes dans cet épisode. Son nom de famille à cette réalisatrice est un anagramme d'un magazine jeunesse que je lisais beaucoup quand j'étais petit.
Attends, le journal de Mickey.
Yekumal Rajnour, cette fameuse réalisatrice iranienne, effectivement. Et non, ce sera.
C'est quoi le magazine?
Astrapi.
Ah oui, Astrapi.
Non, on ira faire un tour du côté du cinéma de Marjane Satrapi. Qui nous revient avec un film sur l'effarante et incroyable vie de Marie Curie. Un épisode.
Ah oui, celle qui a inventé, le cancer à cause de la radioactivité.
Celle qui est morte, qui en est morte aussi, d'où le titre du film Radioactive. Voilà, exactement. Qui colle aussi avec l'indice musical que vous entendez en fond. Waouh, tout est pensé dans ce podcast, vous voyez, hein, rien n'est fait au hasard.
Avec Rosamund Pike.
Oui, avec Rosamund Pike. En tout cas, c'est ce dont on parlera, nous, la semaine prochaine. Vous pouvez réécouter nos autres épisodes. Sur toutes les plateformes de podcast, évidemment. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, évidemment, aussi. Vous pouvez aussi, hein, totalement en toute liberté, nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast avec un commentaire
élogieux.
Mettez la note que vous voulez, mais n'hésitez pas à noter. Ça nous sert beaucoup, nous, quand même, d'avoir un référencement.
Soyez indulgents et enjaillez.
Et sur ces belles paroles, nous allons nous dire maintenant au revoir, les amis, à la semaine prochaine.
Au revoir, les amis, à la semaine prochaine.
Salut.
Bisous.
Shoshana!
Est-ce qu'il y a des gens qui mettent 5 étoiles sur Apple Podcast?
Moi j'ai mis 2.